Ce qui m'intéresse, c'est bien synthétiquement, là, c'est le personnage lui-même, comment il en est arrivé à s'intéresser aux communications.
Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai étudié en sociologie à Laval, j'ai étudié en philosophie à Laval, à l'Université de Montréal. J'ai fini en 59. Là, je suis devenu, je devais devenir professeur à l'Université de Laval, ça m'intéresse pas en tout, je suis pas même. Fait qu'à un moment donné, j'ai trouvé un petit job au petit journal pendant 6 mois, comme journaliste en 59. Et puis, ensuite, je suis passé à Radio-Canada. De 60 à 65, j'ai été à plein temps presque à Radio-Canada où il y avait la première chose que j'ai faite, c'est une série qui s'appelait Apprenti. J'étais trop jeune pour finir de ça, je pense, 61, 62, 63, avec Unité Mobile, sur film de deuxième année. D'où est née une autre série qui s'appelait 20 ans express, qu'on faisait avec Portugais, Fournier, etc., Geleno, Constantino, Paganini. Bon. Des gars comme Martin, Gilles Duvambert, tout le monde a envoyé ça au Canada, c'est la première fois. Ensuite, j'ai fait de la radio, partage du jour pendant un bout de temps. J'étais en faisant du journalisme, on m'a accueilli. Puis en 65, j'ai démissionné de Radio-Canada. Là, j'ai eu des contrats à l'ONF, comme freelance. Plus des séries à Radio-Canada de temps en temps pour dossier. Puis en 69, j'ai fait une série pour Radio-Canada de dossiers, de 6 émissions de la série dossiers sur la culture au Québec. Et c'est là que j'ai pris conscience des cadres la première fois, à l'été 69. J'avais fait tout le tour du Québec. C'est un gars qui voulait faire une série sur les centres culturels, les éléphants blancs, là. Ben, je m'étais mis à analyser ça. Je me suis promené en France, un peu partout. Et je me suis retrouvé un jour à Gatineau, ça avait été bien drôle, au Vidéotron. Il y avait un cas. Ils avaient installé leur studio au Centre des Arts de la petite ville de Gatineau. Les gars du Centre des Arts ont mis à la porte Vidéotron, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec ça, ils prenaient de l'espace. Puis cet été-là, Vidéotron avait des porte-à-pac, avait un ou deux magnétoscopes. Puis ils donnaient ça aux jeunes. Qui faisait des reportages de comédie. Ou samedi matin, c'est des enfants de 10h jusqu'à 1h. Ils faisaient une sorte d'appel. De 8 ans, du chalet jusqu'à 12 ans, 12, 13 ans. Il y a des choses assez drôles qui se passent. Oui. Ça fait que, comme les affaires culturelles sont en train de s'organiser, ils étaient en train de créer des bureaux d'aménagement culturel, j'étais au courant de ça. J'avais été voir la gang là-bas, je les avais amenés à Gatineau. Là, ça avait été bien drôle. C'est ici qu'on est entré dans les. Vidéotron a déménagé au centre d'achat, au côté du Skyway, parce qu'il était mis à la porte. J'ai fait demander les gars du ministère d'affaires culturelles. Les trois sont arrivés. Ils sont entrés dans le studio. C'était un petit local rectangulaire, environ 20 pieds par. Ou 30 pieds par 15, tout petit. Ils font le tour de ça. D'un coup, un gars, il dit, ça, on a fait des expositions de peinture ici. Ça va diffuser. Alors moi j'ai dit, écoutez, ça serait difficile parce que j'ai du noir et blanc, ils ont la peinture en général, c'est en fou d'œuvre. Ils disent, ben ouais, je comprends ça. Ils ont trois chairs du théâtre, ils en diffuseraient. En aucun moment, les gens étaient capables de penser ce que ça voulait dire. C'est tombé. Là, je suis allé à l'Institut coopératif des Jardins aussi. Parce qu'il y avait toute la rive sud de Québec qui était libre, puis je pensais que les coopératives devaient rentrer dans ça. Je devais parler de collègues pour rentrer. Puis de fil en aiguille, comme je m'intéressais au phénomène culturel, je suis entré à l'ONF pour aller faire un film qui s'appelait L'imagination au pouvoir. C'est sur l'urbanisme, etc. Bon. Puis, c'est une nouvelle naissance à ce moment-là. Alors, de fil en aiguille, je suis rentré comme producteur de la Société Nouvelle.
Mais quand tu es rentré à la Société Nouvelle, les politiques de l'ONF, c'était quoi? Alors, en termes de face au gouvernement, face au groupe.
Il n'y avait aucun politique. Bon, non, je pense pas.
Toi, tu es rentré à l'ONF au groupe de recherche sociale ou,
Non, je n'ai pas connu le groupe de recherche sociale. Oui. J'avais été à l'ONF de 66 à 70 dans des contrats. En 66, à un moment donné, j'avais fait une longue recherche. C'était purement de technocrates qu'à ce moment-là, le rapport Glasgow venait d'être publié, c'est-à-dire la commission royale d'enquête sur l'administration publique. Le rapport Glasgow recommandait la délégation des pouvoirs des organismes centraux, c'est-à-dire et la fonction publique au niveau de l'emploi, de l'embauche et des promotions des politiques du personnel, et le Conseil du Trésor au niveau des politiques financières avait décidé de déléguer des pouvoirs vers les ministères. D'autre part, une autre recommandation était que les ministères se décentralisent vers les régions, c'est-à-dire les provinces ou les régions, parce qu'ils appellent ça des régions. La philosophie qui était derrière était très simple, c'est qu'un gars qui a une responsabilité doit avoir les pouvoirs, conséquences et responsabilités. Là, il faut qu'il y ait le pouvoir d'embauche, le pouvoir de dépenser de l'argent, s'il est plus responsable d'un programme. D'où la délégation vers le ministère, la décentralisation du ministère. Ce qui impliquait une sorte de standardisation des comportements à l'intérieur de la fonction publique. Alors en 66-67, j'ai fait le tour de tout le Canada et tous les ministères de haut en bas, tu sais, du gouvernement fédéral, pour établir un plan de au niveau des communications, une sorte de modèle utilisant les systèmes de communication existants. Ça devait être fait par l'ONF, mais de toute façon, l'ONF a fait que deux essais, ça n'a jamais marché, c'est tombé. Alors j'avais eu à travailler sur des films, dont deux se sont terminés, c'est tout, un film sur la science, fait par Baudin, Do It Yourself, puis un autre film fait par Yves Ledix, et ça s'appelle Les fonctionnaires, quelque chose comme ça, c'est pas très bon, que moi j'ai d'ailleurs. Do It Yourself, c'est le film, c'est assez scientifique. Et, oui?
Comment tu es arrivé à Société Nouvelle?
Bon, alors j'étais, pour se replacer dans le contexte, le groupe de recherche sociale est éliminé à un moment donné parce que le groupe se défait. Dansereau s'en va, Dansereau étant le personnage important du groupe de recherche sociale, tous les membres. D'autant plus qu'ils ont des problèmes, il y a un problème d'argent de l'ONF à ce moment-là. Puis il y a la visibilité à l'intérieur du groupe aussi. Et du côté anglais, on veut avoir. Vous êtes au courant de l'histoire de Planet Fortune Société Nouvelle? Pas besoin de vous raconter ça.
Planet Fortune Société Nouvelle. Ça existe au courant de l'histoire.
C'est qu'il y a deux temps, il y a deux choses dedans. Il y a l'équipe française et l'équipe anglaise. C'est deux équipes qui sont malgré tout indépendantes, qui se parlent très peu. T'sais. Alors, du côté français, il y a une groupe de recherche sociale. C'est seulement quelques gars, c'est Lanceau. Hortense Moix qui est très importante dans ça. Elle était à la distribution. Régnier, Lilian, Forgin comme producteur, qui a fait un certain type de films, à un certain moment donné. Tous payés par l'ONF, par la production française. Du côté anglais, il y a des gars qui avaient travaillé, comme Colin Lowe, en relation avec l'Université Mémorial à Terre-Neuve, dans des petites îles près de Terre-Neuve, pour faire de l'animation avec des documents audiovisuels. Alors, les Anglais avaient besoin énormément d'argent en 68 parce qu'il y a une crise financière. Et des filmmakers étaient arrivés au pouvoir, qui venaient d'être. Non. Et ils s'avancent. L'argent pouvait être augmenté. Puis ils voulaient continuer à faire ce type de film. Et ils se demandaient s'ils ne pouvaient pas avoir la collaboration de plusieurs ministères pour faire des films comme entité. Ça, c'est surtout travailler du côté anglais. C'est les gars du groupe de recherche sociale ne voulaient pas entrer dans ça. Ni Forger, ni Danseau, ni personne. T'sais. Puis des films en aiguille à l'été 69, à cause des tractations qui ont eu lieu en haut lieu, c'est-à-dire la direction de l'ONF et le gouvernement fédéral, le programme a été institué, puis les gars à l'intérieur de la production, comme Bicoté, etc., qui ont marché, Godbout aussi, Jacques Godbout, etc. Et un accord a été signé entre l'ONF et le gouvernement fédéral, créant ce type de Challenge Fortune. Du côté francophone, c'était très long parce que les premières réunions pour fonder Société Nouvelle, le titre vient de Jacques Godbout, ont eu lieu à l'automne 69.
Jacques Godbout qui était au programme des premières.
Qui était directeur de programme. Qui était directeur de la production française de l'ONF à ce moment-là. Jacques a démissionné au printemps 70, il y a deux ou trois ans, comme directeur de production française. C'est lui qui avait signé les choses, qui était d'accord. Alors, les premières réunions ont eu lieu à l'automne 69. Les gars sont réunis pour savoir qu'est-ce qu'ils feraient bien. Il n'y avait pas de producteur, il n'y avait pas il n'y avait personne. T'sais. Il y avait un groupe de recherche sociale qui s'était démembré. Les gars qui avaient extrêmement peur du gouvernement fédéral, et avec raison, peur de la mainmise du fédéral sur l'ONF, via Société Nouvelle. Ils se sont réunis, moi j'étais pas là à ce moment-là. Et ils se sont réunis dans, en fait, une sorte de lac à l'épaule dans le nord ici, de Montréal. Ils ont même mis, ils avaient demandé d'Anseau, puis ils l'ont mis à la porte. Parce qu'ils avaient peur que l'Anseau rapporte des contrats dans sa compagnie privée, dans ce parti. Ils ont essayé de penser à l'idéologie du groupe. Les réunions. Il y avait Louis Portugais dans ça, Forget allait un petit peu, Bulbulien, Hortensois, Michel Héroïe venait d'avoir des difficultés avec l'ONF, je ne sais pas si vous êtes au courant, il avait cassé la gueule à côté, puis il avait été suspendu. Ça y est, il bon. Oh, une bisbille comme ça. Il devait y avoir une dizaine de personnes, et de la distribution et de la production. Alors, ils ont essayé d'élaborer des projets. Ça n'a pas été très loin. Ils ont pensé cependant déjà à ce moment-là à un blitz. Comme ils n'avaient pas de contenu, pas de projet, ils se sont dit si on trouvait une assiette territoriale, on pourrait faire une intégration idéologique grâce à cette référence territoriale. Et c'est là que Bill Lillian avait lancé l'idée de faire un blitz. Quelque part, il faut avoir une série de cinéastes dans un coin. Ils sont bien obligés de travailler ensemble, puis le parosmos, de suivre un petit peu la région. Ouais, c'était pas région 80 à ce moment-là, il avait pensé à l'Abitibi ou à autre chose. C'était à l'automne 39, ça. Moi, j'étais pas là, tu sais. Les premières réunions du groupe Société Nouvelle ont commencé vers le mois de janvier, 25, 26 janvier. Les procès-verbaux, ça. Vous voyez les avoir, s'il vous plaît. Je les ai tous, bon, je les ai peut-être jetés maintenant, mais j'avais sorti. Je les ai à voilà. Et ça, c'était un groupe ouvert. Les structures étaient drôles. À cette époque-là, Léonard Forêt avait été nommé animateur du groupe. Il finissait son film « Nana, c'est pas fini », dans le montage, puis il avait du temps libre un petit peu. Marc Baudette était producteur exécutif. Mais Marc n'allait pas aux réunions, il faisait qu'entériner ce que le groupe décidait. Le groupe était composé de gens de l'ONF et de gens de l'extérieur, parce qu'il s'était ouvert à tout le monde. C'est évident que les gens qui venaient là, c'était seulement ceux qui savaient que le groupe existait. Alors, c'est ceux qui avaient été appelés, c'est comme moi, Marc Baudette, à un moment donné, que je connaissais, m'a appelé, il dit « bien bon ». Il m'a appelé deux, trois fois, à un moment donné, j'étais voir ce groupe-là, savoir ce que c'était. Enfin, c'était bien drôle. Des fois, il y avait cinq personnes qui se réunissaient. Les réunions avaient lieu une fois par semaine, systématiquement. T'sais. Un après-midi. Des fois, il y avait cinq personnes, des fois 20, des fois 25, des fois 15. C'était jamais les mêmes. Avec une majorité, évidemment, de gars de l'extérieur, parce que tous les gars qui avaient des projets de films, et qui ne pouvaient pas passer dans la filière normale de l'ONF, allaient là. Pour moi, avoir des fonds de recherche, des fonds d'études. Et puis, comme ils se jugeaient entre eux, ils étaient constamment jugés partis. C'est le bonhomme qui avait un projet à proposer, c'était pas pour dire non aux voisins auparavant, parce qu'il ne pouvait pas dire non après. Alors c'était oui à tous les projets. Alors moi je me suis retrouvé là à la fin janvier ou au début février. Je me suis dit, ben non. Et j'ai fait comme tout le monde. J'avais un projet de film qui m'intéressait. C'était sur le loisir, la culture, l'urbanisme, l'espace. T'sais. Ça m'intéressait beaucoup. La place avec Cinéon m'intéressait beaucoup. J'ai fait un projet de film. C'était l'imagination au pouvoir. La récupération de l'espace à Montréal. J'ai commencé à travailler sur ça. Là, à un moment donné, Léonard voulait partir de ça. Ça ne l'intéressait pas. Il fallait aller négocier avec le fédéral presque tous les mois. Il y avait une réunion, des fois tous les 15 jours. Puis il était représentant sur le comité interministériel qui avait été créé. Et puis, on a cherché un directeur, puis un animateur, responsable du groupe Société Nouvelle. On a cherché partout, on n'a rien trouvé, on avait demandé à Portugais, Portugais ne voulait pas y aller. Puis à un moment donné, vers le mois de mars, si ma mémoire est bonne, Léonard avait réellement démissionné. Là, il y a eu une réunion, il a redonné sa lettre, puis il n'y a plus personne. Il y a eu une élection pour nommer quelqu'un. C'est que Léonard m'a proposé. Il y avait seulement un concurrent, puis le concurrent, il nous paraissait assez inacceptable. Fait que j'ai dit oui, il y a eu une élection, j'ai été nommé animateur. Seulement, ça s'est fait dans un groupe informel, il doit n'être pas courant que ça, t'sais. La direction. Là. Ouais. Et par hasard, la direction, comme Godbout, ces gars-là étaient bien contents de me voir entrer dedans parce que c'était un programme dans lequel il y avait déjà à peu près 30-40 000 $ de dépensés dans l'année, qu'il n'y avait aucun projet de film, il n'y avait absolument rien de parti encore. Région 80 n'est pas encore parti. Et Bulbulien, à cette époque-là, était parti en Tunisie ou au Maroc en vacances. Et rien ne se faisait. Fait que je me suis retrouvé animateur. Ça, c'était un jeudi, je pense, si ma mémoire est bonne. La première chose que j'ai faite, Région 80 était en recherche, cependant, avec Michel Benoît, qui le connaît. J'ai pris de... Michel Benoît, oui. C'était à l'Université du Québec, puis après, puis à la Nationale maintenant. La première chose que j'ai faite, j'ai pris l'avion le soir même, je suis monté à Chicoutimi. Là, ça fait la route. J'ai trouvé mon Michel à l'hôpital. C'est un gars d'alpha, Michel. Au niveau éthique, là. Ouais, les gars l'aimaient pas, moi, j'aimais beaucoup parce qu'il y avait toujours une. Il connaissait ses cellules. Pas capable d'expliciter, pas capable d'organiser, pas capable d'opérationnaliser, mais pour dire, va pas dans tel groupe parce que c'est un groupe de droite, va dans tel groupe à Alma parce que les gars sont porteurs d'avenir. C'est très ponctuel. J'ai vu qu'il y avait des bactéries, des hormones, etc. Les gars le font là-bas. Il était sur un lit d'hôpital avec une maladie vénérienne, je ne savais pas trop. Ça faisait une semaine déjà, hein. Il se faisait piquer. moi, j'étais pas mal universitaire, alors je lui demande s'il y a lu les rapports de PDQ sur une sortie sur la région. Je lui dis non. Je lui demande s'il y avait un géographe qui faisait sa thèse de collaboration jusqu'au Timi dans le coin, avec Bouchard. T'sais. Je lui demande si tu allais voir Bouchard, s'il était dans sa case, sur telle carte géographique, les cartes de la région. Tout fait. T'sais. Il n'est pas allé. Lui, il est allé voir seulement certains individus, puis tout le schéma intellectuel là, habituel, il peut passer à travers ça, ça va être un truc. Je suis redescendu à Montréal, j'ai été négocié, j'ai été au comité interministériel où la visibilité a commencé. C'est comme ça que je suis rentré. Bon, j'étais animateur. Je ne voulais pas devenir producteur, je voulais faire mon film. À ce moment-là, j'ai mis mon film de côté de m'occuper de Société Nouvelle, un bout de temps. Et je me suis mis à chercher un producteur avec Portugais, avec Fort de Monde. On n'a trouvé personne. Personne ne voulait rentrer en ça. Parce qu'on était rendu en juin, il n'y avait rien. On avait dépensé beaucoup d'argent, on n'avait pas de projet, pas de film. On n'avait rien. Bon, la première chose que j'ai faite, moi, c'était d'éliminer le groupe. En leur disant, si tu trouves le procès verbal de ça, je lui dis, regarde, où on se fait acquérir. Consciemment, parce que c'est un groupe complètement irresponsable, étant donné qu'il n'y avait jamais de structure exécutive, étant donné que tout le monde était jugé parti, étant donné qu'il n'y avait pas de consensus possible au niveau idéologique. Il fallait, quand il y a un programme, il faut avoir les critères a priori de programmation, non pas seulement postériori, ce qu'on voit dans ce groupe-là. Ou on se faisait arraquerie, ou moi j'ai distancé les réunions, au point tel que le groupe se décomposait très vite. Et c'est l'alternative. Alors on s'est fait arraquerie, évidemment, j'ai distancé les réunions pendant 6 mois, de telle sorte que 6 mois après, il n'y avait plus de groupe. Et tout ce que j'ai fait vite, comme je voulais sauver la face de l'ONF, c'est mon mandat, c'est de partir des projets. Alors j'étais prendre Régnier, j'ai passé 2 mois avec lui à lui vendre l'idée de faire Urbanos. On ne savait pas que c'était Urbanos à ce moment-là. Ça s'appelait Slum Power. bon, je ne connaissais pas trop Régnier. Régnier ne voulait pas parce que lui, il venait d'avoir des crises avec l'ONF, il avait été mis à la porte. Il avait été 6 mois sans être payé. Il y avait eu un grève du syndicat qu'il a gagné. Il a été payé seulement en septembre. C'est en septembre qu'il a réintégré l'ONF. Et tout ce qu'il pensait faire, c'est s'en aller en France, faire un petit film sur un berger qui vit tout seul dans les montagnes. Il voulait se débarrasser de l'ONF. là, il est entré sur Urbanos. Avec un hasard, c'est que moi, je voulais la goûter sur quelqu'un qui connaissait un peu l'urbanisme. Jean Descaries, qui avait travaillé avec moi tout le temps, je vous en parle après, c'était un gars assez important, Jean Descaries, était parti en Afrique, puis il ne pouvait pas. Et j'avais vu le film de danse de Giraldo sur Beaux-Arts, c'est ça. Beaux-Arts, c'est autre chose. Ça s'appelait Beaux-Arts. Et il y avait un urbaniste dans ce film qui m'avait paru intelligent. C'était le gars de l'ancien doyen de Laval, d'architecture de Laval, tu sais. Durand, Luc Durand. Mmh. Je ne connaissais pas. Alors je vois Giraldo, je lui dis, connais-tu, tu as fait un film, tu as des urbanistes dedans. Connais-tu un bonhomme qui serait le fan? Luc Durand serait le fan. J'appelle Luc Durand, puis j'organise un rendez-vous entre Régnier et Durand. Je ne vais même pas, mais ils ont cliqué les deux gars ensemble, tout de suite. Tu sais. Puis c'est là que Urbanos s'est fait. Alors j'ai parti une série de projets comme ça très très vite. L'idée était finalement de dépenser l'argent qu'on avait dans l'année fiscale. On a embarqué Région 80 aussi. Région 80 devait se faire étant donné qu'il y avait déjà près de 50 000 $ de dépensés, mais rien fait. Donc on ne pouvait pas rétrograder. Ça, c'est l'été 70, ça dépend.
Mais comment a été dépensé cet argent, de 50 000 $ pour Région 80?
En toute recherche, toutes sortes de choses, achat de pellicules, achat de... C'est qu'on ne savait pas ce qu'il y avait de dépensé parce qu'il y avait eu beaucoup de voyages dans la région. C'est cher les voyages. Et de toutes sortes de cinéastes qui étaient allés, qui cherchaient des projets. Tu sais. Alors, les gars avaient chargé ça sur le dossier, sur le compte de Société Nouvelle. Moi, quand je suis entré, j'ai pris les factures, puis connaissant les alibis de tout le monde, j'ai refait les transferts. Mm-hmm. Puis je me suis aperçu qu'en nous, on avait 50 000 $ à dépenser. Et je me suis aperçu que c'était fucké là-bas aussi. Mais là, j'étais poigné, j'avais soumis aux directeurs de la production française une série d'alternatives. Dès le mois d'août, j'avais dit, on avait un budget de 280 000 pour faire le projet.
Région
80. Si tu calculais la présence des gars, de 6 gars là-bas, pendant un an, avec les comptes de dépenses, les voitures, la pellicule, tu faisais aucun coup. Tu faisais que payer l'infrastructure, c'est tout. Tu sais. Mm-hmm. Quand tu faisais l'analyse objective, il n'y avait rien à faire. Il nous fallait un autre 100 000 $ au moins. Bon, alors j'ai dit, on ne peut pas les demander 100 000 $ actuellement, il n'y a rien de fait, il y a 50 000 $ de dépensés. C'est absolument inutile. C'est, je peux pas, je sais pas ce que ça va donner. Je ne peux pas le faire. Casser le projet complètement, ça ne tient pas debout parce que la Société Nouvelle commence. Si on casse le projet, on défait tout ce qui pourrait se faire. Il faut garder le mythe au moins, le 180. Puis il va y avoir des répercussions à l'intérieur de l'ONF telles que je ne peux pas en déterminer les conséquences. D'autre part, on perd la face comme production française devant le fédéral. C'était pas faisable. Il restait d'adapter le projet. C'est-à-dire de casser l'intérieur sans que ça paraisse. Et à ce moment-là, se présentait leur mandat, ce qui permettait de mettre des milliards sur les films et de faire des télévisions communautaires à leur mandat.
Comment c'est arrivé, ça?
Tu dis ce qui permettait de faire, c'est-à-dire, est-ce que l'hypothèse était... l'hypothèse, a-t-il été un corollaire que l'hypothèse soit presque formulée
et recherchée? Non. Comment c'est... Région 80 est née d'une drôle de façon. Et il y a des gars qui ont été assez corrects, entre autres Bobet, Jacques Bobet, qui avait expliqué si lui de procès-verbaux, j'espère qu'ils l'ont mis dedans. À un moment donné, Bobet dit, Chris, les gars, si vous n'êtes pas capable d'arriver à un consensus idéologique, donnez-vous au moins un consensus habitorial. C'est la raison pour laquelle les gars se prenaient au lac Saint-Jean. Le choix du lac Saint-Jean, c'était par hasard, de toute façon, parce que le bien était passé là, puis il y avait les blondes, etc., etc. Il n'y avait aucune autre recherche de fait. Bon, mais dès le printemps, quand ça avait commencé, j'avais envoyé moi, une foule de dossiers sur les TVC, c'est-à-dire les câbles, à Benoît. Et dès que je suis rentré comme animateur à Société Nouvelle, le premier contrat que j'ai donné, j'ai appelé Gilles Constantino, puis j'ai demandé un rapport sur l'état de la table de distribution au Québec. C'était en avril, c'est le premier contrat. Il nous a donné le texte, il nous donnait l'état de la carte de distribution, les progressions pour le Québec, avec comparaison avec le reste du Canada. Parce que je trouvais que ça pouvait être un lieu intéressant. L'autre affaire, c'est qu'à l'automne 69, j'avais été à l'été 69, plutôt au printemps, l'ONF avait demandé de faire une analyse d'un projet du ministère d'expansion économique régionale qui voulait utiliser l'ONF pour... parler aux gens d'industrialisation. Il y a des lois là, des zones dessinées, etc., qui sont sorties. Alors j'ai analysé ça, mais je me promenais un petit peu, j'étais assez jeune beaucoup à ce moment-là, parce que j'étais analysé ce qui s'était passé après tout. J'étais à tête fond de marée, j'étais à mon mari, j'étais un peu partout pour voir ce qu'il y avait à faire. Et j'en suis arrivé à dire à l'ONF, on ne ferait pas dans le programme, à moins de donner aux gens des moyens d'expression pour qu'ils puissent s'organiser eux-mêmes, chacun dans leur région. Alors là, j'avais expliqué que le film était impossible, qu'il fallait un autre clic, et que c'est pas possible de l'ONF, parce qu'il ne voulait pas rentrer dans la microscopie et dans la décentralisation de la production. Mais il m'apparaissait que si on voulait arriver à ne pas imposer les mêmes thématiques à tout le monde, qu'il fallait donner aux gens des possibilités de concertation régionale ou locale, c'est-à-dire avec des moyens d'expression qui leur appartiennent. Ça, c'est que je peux donner le rapport, c'est en 68. On avait parlé longtemps de la magnétoscopie qui était l'unique voie pour singulariser les contenus. C'est les particulariser pour qu'on ait
problème. Comment ça a été développé, ça, à l'intérieur de Société Nouvelle, l'expérimentation du magnétoscope de 10 pouces? Comment ça en est venu à créer le mouvement des télévisions communautaires qui a été presque généré par l'Office national de Société Nouvelle au début? Bon, puis il a peut-être même, injecté pas mal toute la philosophie des télévisions communautaires.
Ben, il y a, de mon point de vue, il y a beaucoup d'influence. Il n'y a pas de personne qui n'a jamais explicité ce qui s'est passé. De toute façon, on était dans un contexte où on ne pouvait jamais expliciter nos intentions. quand tu vas demander des fonds à des ministériels, tu n'explicites pas ce que tu veux faire. Ok. C'est-à-dire, t'en parles, puis tu essaies constamment de laisser le projet implicit. Et dans le contexte dans lequel on vit, le contexte libéral dans lequel on vit, ça aide tout le monde, et surtout les gens qui ont le pouvoir, qu'on reste en implicit, évidemment. Il y a l'effet de hasard là-bas. Le câble existait. Du côté canadien-anglais, surtout du côté américain, il ne faut jamais oublier qu'à l'ONF, il y a des Anglais. Il ne faut jamais oublier que les Anglais sont extrêmement reliés aux États-Unis. Puis aux fric américains. Et puis ils étaient très reliés à tous les groupes vidéo de New York qui connaissaient ça. C'est Rendon's Corporation qui naissait à ce moment-là, ils connaissaient ça. Ils connaissaient ce que les groupes essayaient de faire avec les câbles aux États-Unis, qui étaient beaucoup plus moins avancés que nous au niveau de la pénétration, mais au niveau de l'idéologie, beaucoup plus avancés que nous. Au niveau de la technique aussi. Bon, alors les Anglais nous parlaient souvent du câble. Ils avaient déjà un projet, eux, à Thunder Bay, en Ontario. Ils avaient essayé de créer une sorte de ce qu'ils appelaient un charter board, c'est-à-dire une sorte de conseil de programmation qui venait des organismes peut-être plus officiels de la place, qui venait de 100 000 habitants. Puis ils essayaient de faire une télévision là-bas. Ils avaient envoyé du monde, ça a été 70. Ça. Nous, on connaissait ça. Il y avait des projets qui arrivaient de Vancouver à ce moment-là, qui arrivaient de d'autres villes aussi, Winnipeg, dont on ne savait pas trop quoi faire, mais ça arrivait toujours des villes anglaises, jamais du Québec.
Et dans ces projets-là, il y avait des projets de télé sur le câble.
Oui, essentiellement, c'est des projets de télé sur le câble à ce moment-là. Il y avait un seul endroit où on travaillait comme magnétoscope en petit groupe, c'était dans le nord, en Alberta, avec Karch, Drumheller.
Mais on servait aussi des magnétoscopes sur le câble à Vancouver.
Oui, puis à Thunderbird aussi. Bon, on avait tout ça en tête, nous autres. Puis il faut se remettre dans le contexte où on voyait les câbles comme des câbles distributeurs comme des gros capitalistes, on voyait les sociétés commerciales qui prendraient les canaux pour faire l'achat à distance, la police qui prendrait les canaux pour faire la surveillance des ponts, etc. Donc on voyait toutes sortes d'autres utilisations qui étaient des utilisations commerciales, des utilisations policières, des utilisations fonctionnelles. Et surtout les Américains qui voyaient ça, à cause des travaux de la RAND Corporation, etc., sur la câble de distribution. Et ils voulaient donc...
Ah, la RAND Corporation, tu as l'appelé?
Ben oui, de 1937-1938, ils ont fait le rapport sur les liens de la RAND Corporation. Ça fait longtemps que ça lance un peu. Aux États-Unis, c'est toujours comme ça. Bon. Alors, ils avaient une idéologie de NPD de vouloir réserver des câbles à des fins non commerciales, à des fins non fonctionnelles, à des fins communautaires. Ça, c'était dans l'air. Ça n'a jamais été travaillé plus que ça. On se retrouve au lac Saint-Jean. Nous, on est situé à Jonquière. On regarde les lieux. On veut s'inscrire à Jonquière, on veut créer un organisme de production. Une sorte de coopérative, on a créé d'ailleurs, de toute façon. Parce qu'on oublie toujours, dans la région métropolitaine, qu'il y a deux projets. Il y a eu des TDC, puis il y a eu une coopérative qui a été fondée, de production à Jonquière, qui a fait quelques documents pour l'OFQ, je ne sais pas ce que ça donnait après, parce qu'on les a abandonnés très vite. Hélas, on aurait dû les continuer. Puis là, on voulait travailler avec des organismes de la région. Il y avait le bloc qui existait en Abitibi, on s'inspirait beaucoup du bloc aussi, avec lesquels on n'avait rien eu à voir. Mais dans la région du Saguenay, à ce moment-là, c'était extrêmement difficile de travailler parce que tout le monde était très réformiste. Avec la CSN, ce qu'ils nous demandaient, c'est de la propagande, des anticommerciaux, des slogans. L'UCC ne marchait pas trop. Il y avait seulement un petit groupe de la CSN qui était fan, c'était dans la région d'Alma, où là, on acceptait de revenir à la base constamment et de contester la direction, voilà, au niveau consensus démocratique. Mais ça ne se prêtait pas. La deuxième chose, c'était d'être dans une région dont 90 à 95% de l'économie dépend du destin, dépend de l'extérieur, dépend de la place border et de l'Alcan, donc du marché international. Et toutes les crises de jeu de politique régionale deviennent aberrantes, si tu ne prends pas conscience de ça. Dans cette région-là. Ça, c'est la première chose qu'on a dit. Il n'y avait rien à foutre, on les embarquait dans une finisterie si on se mettait à dire qu'ils pouvaient contrôler quelque chose. Au point tel qu'avec Maurice, moi, tout ce que je lui disais, Maurice, laisse tomber région 80, laisse tomber le mythe régional, refais l'histoire de la région pour savoir où ces gens-là ont fucké, tu sais. Il a essayé dans le film sur les forêts, parce qu'il parlait du buc longtemps, tu sais, dans nos forêts. Il a parlé du buc longtemps, mais il n'a pas continué. Si on voulait refaire l'histoire de la région, l'histoire de la dépossession de la région. De Saguenay de la Saint-Jean. Ça n'a pas été fait. Il a laissé tomber. Ou, je lui disais, l'autre possibilité, c'est relier des groupes du lac Saint-Jean à d'autres groupes du Québec. Prendre les bûcherons de là-bas, on les met aux bûcherons de la Mississippi, pour aux bûcherons de la Gaspésie, pour faire des liens horizontaux, pour briser le métal sur la route. Alors c'était ça dans lequel on était parti. Et on ne pouvait plus travailler avec les corps intermédiaires du Saguenay, qui était pas mal réformé. C'est d'autant plus que dans le CRB, à ce moment-là, les syndicats s'en retiraient à cause de conflits et de tout ça. Au même moment, on avait identifié un bonhomme du côté du lac Saint-Jean qui s'appelait Léon Girard. Vous connaissez Léon Girard? Léon, c'est une espèce de vieux bonhomme. Léon Girard. C'est un vieux bonhomme qui a été, qui s'est trouvé durant l'hiver. C'est un ancien vendeur d'instruments oratoires, un ancien agent d'assurance, un ancien éveilleur de rang d'hiver, un gars qui avait 13 enfants, ivrogne, il a été pendant 10 ans ivrogne, complètement sous, tu sais. Et puis, tout à coup, il devient animateur à Québec. À 55 ans de passé. Il s'est révélé. Il s'est révélé comme un gars extraordinaire. Et un animateur, pas comme les autres, tu ne peux pas l'interviewer, il faut que tu suives pour savoir ce qu'il fait, parce qu'il ne parle pas. Et quelque chose de magique en lui. Puis il s'est entouré de jeunes. Il est devenu maire d'une paroisse, de deux paroisses, puis la première chose qu'il a faite, il les a réunis, tout en étant animateur à la régionale d'où il est bon. Donc, il faut parler aussi du directeur, on l'a mis belle avance, c'est un technocrate, qui maintenant travaille au ministère de l'Éducation. Mais c'était un gars absolument extraordinaire, comme intelligence, avec un gros budget administré, 6 millions de dollars. Mais extrêmement ouvert. Il avait embauché une série d'animateurs à l'éducation permanente qui n'avaient aucune tâche. Léon Girard en était un, il avait très armé, il était dans les tavernes, il s'occupait de la FEA, il s'occupait de toutes les organisations comme maître de cérémonie. C'est tout ce qu'il faisait à ce problème. Puis il y a 4-5 gars comme ça dans cette régionale-là, embauchés par Belle Avance, qui acceptaient, qui faisaient des passes. Alors Léon, ça avait connu Michel avait été mis au courant de ce qu'on pouvait faire avec les calmes. Télec venait de se terminer. Alors il a dit, est-ce qu'on pourrait faire une petite télévision à Normandin? Et ça s'est passé un soir où Lévillon était justement à Normandin. Alors il y a un électronicien qu'on avait qui est allé le lendemain, il a branché le magnétoscope sur le calme, avec le RF du magnétoscope, tu sais, le modulateur du magnétoscope, ça passait. Passé. De telle sorte que pendant un an, ces crises de foule-là ont diffusé sans modulateur, tu sais, avec seulement un petit modulateur du porte-à-porte. L'image, après 3-4 maisons, elle ne rendait pas mal. Ouais.
Mais il y a certainement donné des espèces de. Non, pas des rumeurs, je pense. C'est pas des rumeurs. En quoi il se faisait déjà de la télévision communautaire à Normandin. Avant même que le groupe s'est dit.
Non, il n'y avait jamais rien.
Il n'y avait jamais rien.
À ma connaissance, non.
Selon les rumeurs, c'était très patenté au niveau du cadre distributeur, qui était une espèce de patenté.
Non, parce qu'il n'y avait pas de magnétoscope, puis s'en est acheté un an après, ou 6-7 mois après, il a voulu s'en acheter un. Il n'y en avait pas ce moment.
Il n'y en avait pas ce moment.
Alors ça a commencé comme ça, par un pur hasard. Il faut aussi mettre dans le contexte, les gars, bien, Québec vient de se terminer. Les gens veulent continuer ça. La partie du lac Saint-Jean où les structures d'animation ont plus fonctionné, c'est dans cette région-là. C'est pas dans. Et de façon avec une tradition très culturelle en plus, qui vient de Léon Girard. Léon se disait, lui, on ne s'attaque pas aux problèmes sociaux. On va permettre aux gens de trouver des gratifications personnelles. On va permettre aux gens de s'exprimer, de telle sorte qu'ils avaient des dynamiques de groupe, ce genre de choses comme ça. Et puis, quand les gens auront trouvé leur moyen d'expression, Christ, ils vont agir sur la réalité. Mais il y a une étape initiale, très rogérienne, mais qui était la sienne, d'expression personnelle, c'est de culturelle, d'animation culturelle, c'est tout. Et tout région de la province, c'est-à-dire tout Normandais, ont béni dans ce climat-là. Alors, ce qui s'est passé c'est ça qui a été le succès d'ailleurs, ça s'est fait malgré nous, malgré tout le monde. Que les gens du lac Saint-Jean, c'est des gens extrêmement organisateurs. À partir du moment où ils ont su que ça pouvait fonctionner, ils se sont dit, on va essayer. Les gars de Région 80, l'équipe de l'ONF est restée à Jonquière. À part Bibillon, est resté là. À part l'électricien, qui lui, voulait faire son premier film, donc il est allé en Normandin, mais ça n'est pas occupé, il tournait. La Monde, qui était embauchée pour aller là, était contre, parce qu'il n'y a pas l'équipe de Région 80. Dion est allé deux ou trois fois, puis il s'est chicané avec le monde de Normandin parce qu'il voulait faire des émissions de pastorales. Puis lui, il ne voulait pas. Alors il s'est en allé à Jonquière. Mais c'est les gens eux-mêmes qui se sont réunis, qui ont décidé de faire une programmation. Il y a le comité d'évêque, donc une partie économique, une partie travail, une partie pastorale, une partie jeune, loisir. Tu comprends les schémas habituels. Puis ils ont fait une semaine de télévision dans la région de Normandin, à Normandin même. À 15h dans la première semaine. C'est évidemment du studio ou des entrevues. Il y a des émissions extraordinaires. Par exemple, pour faire un fond visuel, les gars sont entrés en moto, ils ont fait le tour du lac Saint-Jean, ils travaillent continu. Parce qu'ils ont mis la caméra sur le ouais. Tout et ils ont filmé, c'est tout. Les parents entrevues, c'est là que les gens qui se déroulent. Un backscreen tout le temps. Ils ont fait des choses comme ça.
Un backscreen avec la personne en avant.
Oui, oui. Ils ont fait ça de choses comme ça. Très drôle. Ouais. Ben, ça a eu un impact inouï parce que les gens louaient des autobus, collectifs d'âge environnant, pour venir en Normandie se voir sa première fois.
Pour les voir la télévision.
Ben oui. Pour se voir la télévision, voir leur chat, voir leurs parents. Ben, ça a eu ça a eu un total.
Ça
serait
quoi, ça, que tu serais comme bilan de la télévision?
Bon, immédiatement après, parce que par hasard, vous ne savez pas déconcerter, on a arrêté. Complètement arrêté. Pour permettre aux gens de Normandie de s'organiser. Là, c'est là que moi je suis intervenu pour envoyer l'amour en permanence à Normandin, pour envoyer de l'ordre d'électricité en permanence à Normandin, et ça a cassé le projet Région Canada. Tout ça avec la permission du Bouillon, si on en parlait. T'sais. Le Bouillon, lui, pouvait à ce moment-là s'orienter vers ses films et laisser tomber cette boutique qu'il avait mise sur pied, qui pouvait plus manager. C'était une équipe multidisciplinaire qui devait s'agouter sur les groupes sociaux du coin. Je ne pouvais pas vraiment faire ça. T'sais. Là, il est parti sur Arnaud Forêt. J'ai embauché un tremblé pour récupérer la recherche. Il est allé faire dans nos forêts. Puis Normandin a vécu complètement à côté, complètement indépendant. Et j'ai pris les portugais à l'effort pour l'envoyer là-bas.
Puis toi, disons, de Normandin, ce serait quoi ton bilan sur ce qui a été la première expérience d'une vision communautaire au Québec? Et puis, qui a généré peut-être un paquet d'hypothèses qu'on a répétées à travers les autres télévisions communautaires?
Bon, dans le contexte de Normandin, toute la phrase biologique s'est faite à ce moment-là. La grosse phrase biologique de la communautaire s'est élaborée par Villeneuve, parce que la commission scolaire immédiatement a délégué un bonhomme de plein temps, s'appelait Villeneuve, pour travailler sur ça. Et il y a eu l'avant. Alors ces gars-là ont sorti presque tous les textes de base du communautaire durant le mois d'octobre-novembre. Pendant lequel temps, de l'ordre, l'électricien, l'électronicien, essaie de créer un studio complètement traditionnaliste pour faire une télévision. Et en décembre, ça a commencé. Il y a eu deux groupes complètement séparés, là, qui ont travaillé. Et de telle sorte que quand la jonction s'est faite, bien évidemment, tout ce qui avait été fait du côté de l'organisation sombrait. Et tout, et les gens qui ont pris le pouvoir, c'est les gens qui étaient derrière les caméras, c'est des artisans. CA, le CB, le comité de programmation, qui sont tombés à fond, les structures de n'importe. Bilan, qu'est-ce que je veux dire par bilan? Parce que le bilan de Normandin, et c'est tellement parcellaire avec l'expérience.
C'est peut-être bilan au sens où on a répété après ça à peu près les mêmes formules qu'à Normandin, grosso modo. Et puis, on se pose actuellement, il y a beaucoup de gens qui semblent se poser actuellement la question à savoir, c'était-tu une formule qui.
Parce qu'il y a eu plusieurs
formules. Une formule qu'on doit répéter.
Il y a eu plusieurs formules à Normandin. Au-delà de la phrase biologique, si les gars avaient regardé exactement ce qui s'est passé avec le portugais, il n'y a pas eu seulement l'utilisation de ça. Il y a eu l'utilisation des vidéos en petit groupe, puis l'utilisation du théâtre, l'utilisation de tout ce qui passait là. Portugais regardait plus seulement le cas, mais Magnetoscope. Et si tu l'as comme une sorte de déclencheur dans la région, c'est tout. Là, si un groupe de théâtre passait, il l'utilisait. Si. C'est fait tout.
Pourquoi Normandin, c'était aussi foqué par rapport à Saint-Félicien, qui a mieux marché après?
Ben, c'était foqué pour plusieurs raisons. La première raison pour laquelle c'était foqué, c'est qu'on a adopté, sans s'en apercevoir, une attitude complètement technocratique. Mets-toi dans le coin, là, t'as le petit village de Normandin, où se trouve la régionale, c'est-à-dire polyvalente. T'as à côté quatre villages de Nicolas. Il y a trois villages qu'on garde. Girardville, Albanel, et puis Normandin. Alors, si on avait été intelligent, intelligent, pas le cas, on serait parti, si on avait voulu être complètement technologue, comme Forger l'a été, on serait parti de la technologie qu'on avait, l'infrastructure qu'on avait. Là, on a adopté un schéma purement intellectuel, qui était le schéma des professeurs. Parce que les professeurs vont à la polyvalente. La polyvalente, c'est le centre de tout le secteur. Mais pour les gens qui habitent Albanel, qui habitent Saint-Amand, qui habitent Girardville, eux, ils sur leur place. Et Albanel, c'est Girardville, c'est pas Normandin. Normandin, c'est l'impérialisme pour eux. C'est le capital qui essaie de leur enlever tout. Et nous, on a tout de suite accepté le schéma d'un secteur. De sorte qu'on a créé une seule TV communautaire pour cinq villages. Alors, on faisait les émissions, c'est les mêmes émissions partout. Puis, on passait de carte à carte pour les diffuser. Et les gars des rangs, évidemment, ils n'étaient pas rejoints. mais on les avait intégrés aussi parce qu'on croyait à une unité organique, créer les cinq pilaires. Déjà là, c'est une erreur, ça. C'est de partir de l'idéologie technocratique des professeurs, de la classe moyenne de la région qui centralisait leur mandat et de tout rapatrier les hommes. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a personne à Normandin. Il n'y a pas de jeunes, les jeunes s'en vont, pas de cégep, il n'y a pas de population, il y a 2500 de population CP, population rurale. Il n'y a pas les ressources nécessaires pour alimenter les productions. La troisième chose, c'est que c'était un cadre absolument désuet, foutu. T'sais. Et tous les cadres d'ailleurs de Girard, qui était le propriétaire, avaient été conduits, placés là en 52. Au tout début, il n'y avait même pas le droit de passer sur les poteaux de téléphone de Bell Canada, il passait sur les cordes à linge, à terre, des égouts, partout. C'était des raccordements qu'il avait fait lui-même. T'sais. Donc c'est un très très mauvais cadre. La troisième chose, c'est qu'on s'est jamais donné, personne ne s'est jamais donné d'objectif précis. L'intérêt communautaire, c'était quoi? À part la grande phrase d'idéologie qui porte toujours sur la magie du médium, que c'est un miroir, puis si on se regarde, ça va changer des choses. On n'est jamais allé beaucoup plus loin que ça, excepté dans la tête de chacun. Et quand il n'y a pas d'objectif explicite, ben, le conflit de personnalité s'accentue. Notre assez l'impression que chacun a son objectif. Comme il n'en parle pas, ben, il pousse dans son sens, puis les conflits naissent, ils deviennent effroyables. T'allais là-bas, puis de l'amour, mais les Portugais, c'est jamais écrit de monde. Excepté quand le catalyseur extérieur de Montréal arrivait, ils étaient obligés d'être ensemble, de se parler un petit peu. Mais c'est le seul moment, après, on parle de ça, ils ne se parlaient pas. Personne ne se parlait. Puis, à part de ça, dès que j'ai vu Normandin la première fois, moi, j'ai pris pour acquis que ça ne se ferait pas. Et la décision de passer à Dolbeau et à Saint-Félicien s'est prise tout de suite. Dès septembre. Il y avait à ça plusieurs raisons. Il y avait une raison qui était une rationalisation. On se disait, à Dolbeau, il y a 1500 habitants. Ils travaillaient tous à la place Brodeur, plutôt des travailleurs. Il y a Saint-Félicien en bas avec 12 500 à Dolbeau, c'est-à-dire 1 500 Saint-Féliciens, plus la middle class, c'est-à-dire les services, les notaires, les avocats, etc., qui sont là. Et une autre population, c'est un secteur rural. On s'était dit, ils ont fait 3 télévisions, c'est des gars abstraits, là. On va voir des différences de comportement, des différences d'évolution entre les 3 petites télévisions, compte tenu des variables démographiques et des variables sociologiques et des variables économiques. On pensait à ça. La deuxième raison, c'est qu'on se disait, il n'y a pas à Normandin l'assiette de ressources capables d'alimenter en énergie un tel projet. Alors qu'à Normandin, qu'à Saint-Félicien ou Saint-Miel-Cégep, il pouvait y avoir quelque chose. Pas de coup aussi, il y avait 12 500 habitants. La troisième raison, puis elle a été formulée tout de suite, et si tu reprends les audiences CRTC sur la carte de distribution en avril ou mars 71, ou février 71, j'étais allé. Et Gino m'avait posé beaucoup de questions sur ce que c'est qu'une communauté. Je disais, c'est la première question qu'on s'est posée. C'est-il Normandin, c'est-il viable ou pas viable, comme projet communautaire? Y a-t-il des centres de décision, là? Et dès le départ, j'allais expliquer, si tu reprends les questions, je vais expliquer très bien. Nous, on s'est dit, il n'y a pas de projet possible, pas de projet politique dans une communauté comme ça. Si on ne va pas plus large, il faudra prendre l'ensemble du comté qui correspond aussi à une entité scolaire. T'avais donc, si tu prenais toute la région, tu avais un projet politique pour un seul député, puis tu avais un projet scolaire parce que c'est la même structure scolaire partout. T'sais. Et puis une assiette plus grande. Alors, dès le départ, nous avons pensé de relier tout ça. C'est pourquoi, dès décembre, le comité intercommunautaire réunissant les trois villes a été créé. Dès décembre 70, 2008. Même si ça ne faisait pas de télévision, ni à Dolbeau, ni à Saint-Félicien. Parce qu'on pensait d'avoir une assiette qui pourrait permettre la formulation de projets politiques. C'est-à-dire, ça c'était très abstrait, mais on vivait de ça quand même. Ça s'est fait contre Portugais, qui ne comprenait pas pourquoi moi je voulais toujours accélérer l'expansion sur les autres villes. Sur Saint-Félicien et Dolbeau. Et pourquoi j'accélérais le comité intercommunautaire, qui m'apparaissait primordial, pour la survie de Normandin, la survie du TBC, si on voulait aller plus loin.
Parallèlement à ça, le Vidéolab, sous forme de projet, je pense, depuis 73-76, il avait été refusé une fois en 70 au comité, c'est de la production,
au comité du programme.
Au comité du programme. Ça a été repris. Toi, tu as eu l'idée en 71,
oui.
Tu l'as fait
passer. Elle a été 70. Bon, alors je me retrouve, moi, à Société Nouvelle. Je me retrouve avec à peu près 8 magnétoscopes. 8 à 10 magnétoscopes. L'Office du film, c'est une entreprise de chimie et de physique. C'est des cinéastes qui travaillent avec la pellicule, qui travaillent avec des lances électriques. Et c'est la raison pour laquelle les magnétoscopes sont du côté des ingénieurs du son. C'est les seuls qui connaissent l'électronique. Donc, au point tel que tu trouvais que la vérification suivante, tu avais un ingénieur du son à Normandin qui apprenait aux gens à faire des émissions. Il y a un cadre, alors qu'il ne connaissait strictement rien dans ça. Parce qu'il connaissait l'électronique, c'est les seuls. Alors, j'avais une série de magnétoscopes et j'avais personne qui s'en occupait. Quand tu es dans une grosse boîte comme l'ONF, si tu arrives pas avec un gros projet qui justifie un poste, tu fais seulement te demander, tu n'as absolument rien. C'est une question ça, de technique de vente, c'est tout. Alors, j'avais bien des problèmes avec ça. Il n'était jamais réparé. J'avais personne qui voulait s'en occuper. À l'automne, par exemple, j'avais fait le tour des possibilités. J'étais allé voir Jean Lebel, j'étais allé voir les gars de Radio-Canada, les gars de télévision, pour les envoyer là-bas. J'avais vu Louis Martin. J'avais vu un bonhomme qui a fait longtemps l'émission de René Lévesque, comment il s'appelle, il partait derrière le truc à ce moment-là, ou à Paris, c'est-à-dire, comme délégué de Radio-Canada à Paris, pour avoir des gars valables. Et j'ai trouvé personne. Personne ne voulait y aller. Et à l'ONF, j'ai cherché du monde pour aller à Normandie. Il n'y avait pas un crise de gars qui voulait aller là, surtout dans ce domaine-là. Il y a seulement un Portugais, parce qu'il n'y avait pas de job qui, en décembre, acceptait d'y aller. Puis tout à coup, a pris goût à ça après. Puis ça faisait longtemps qu'il ne travaillait pas, il faisait 3-4 mois. T'sais. Mais il y a une chance qu'il acceptait. Il n'y avait personne. Alors je trouve à l'été le projet du vidéographe. Je trouvais ça intéressant à mon titre. Et je voulais récupérer Forget. Forget avait quitté le groupe de recherche sociale de producteur. Je ne voulais plus entendre parler de rien parce qu'il était très déçu. Il avait été pas mal manipulé, pas mal utilisé par Vincent, par tout le monde. Il s'était réfugié dans son petit coin avec ses bébelles, puis il ne faisait rien. Il faisait un projet au Centre national de recherche. Alors, comme je voulais récupérer Forget dans le groupe Société Nouvelle, parce que c'était un élément extrêmement important, j'avais des problèmes avec les magnétoscopes, comme je croyais qu'il fallait former du monde plus vite dans ce médium-là, que ce ne serait pas à l'ONS, ben, j'ai sauté sur le vidéographe, j'ai pris plusieurs mois de ma vie à convaincre Forget de le ressortir, de le représenter à Société Nouvelle. Puis tout à coup, il a accepté. Ça a pris 2-3 mois de négociation, de discussion, de présence. Il fallait être là.
Pourquoi il ne voulait pas le ressortir?
Parce que pour lui, il avait été refusé, puis le projet avait été placé de mauvaise traque. Les gars de l'ONF avaient catché à un moment donné que c'était une décision qui engageait la politique même de l'ONF et qui engageait tout le comité du programme. Alors, ils avaient pris la filière de monter au conseil d'administration de l'ONF pour accepter le projet. Puis cette filière-là n'était pas possible. Elle était bloquée. Mm-hmm. Le comité du programme ne savait pas du tout quoi faire avec ça, de toute façon. Puis Robert, il ne savait plus trop non plus. Il prenait des appuis. Puis ensuite, il ne voulait pas rentrer dans la société de l'ONF, il y avait toute la galerie gouvernementale derrière. Il y avait sa déception au niveau de recherche sociale qui était quittée. C'était toujours difficile de prendre un gars qui a été dans le domaine, qui en est sorti, un autre prend la place qui était avec moi, puis d'aller le rechercher. Alors moi, la première chose que j'ai faite, c'était de se faire nommer comme représentant des cinéastes au comité interministériel. J'ai commencé à vendre le projet du vidéographe au comité interministériel vers janvier-février, en leur disant que c'était la solution à mes problèmes techniques, en leur disant qu'il fallait absolument former des gens qui soient capables d'utiliser un autre médium que le cinéma, en leur disant qu'on était... Le comité, finalement, à force de... après bien les tractations, ont décidé de me donner $100,000 pour le mandat signé.
Pour faire la recherche.
Pour faire les vidéographes. Bon. Alors là, on s'est retrouvé pris dans une situation intellectuellement illogique. T'as un projet qui demande, pour que ces hypothèses soient vérifiées, un délai de moins de 2 ans, demande à peu près $1,000,000. Alors, on se retrouve avec $100,000. Moi, j'avais une décision administrative à prendre qui était absolument aberrante. Alors, j'ai parlé beaucoup avec Robert. J'ai dit, Chris, tu peux pas, si tu conserves les conditions qu'il te donne, vérifier les hypothèses. Parce qu'on va faire, comme si on était pour 2 ans. On va investir les fonds, on a investi $30,000 seulement en infrastructure pour 6 mois. C'est un non-sens administratif. Il fallait agir comme si on dirait 2 ans, alors qu'on avait mandat de 6 mois. Alors, donc, loin local, prendre un bail de 6 mois, c'est-à-dire d'un an avec possibilité de l'annuler après 6 mois, ce qui coûtait plus cher, aménager le local comme si c'était sérieux pour 2 ans, comme si c'était permanent, tout acheter comme si c'était permanent, et puis monter une équipe comme si c'était permanent, au moins pour 2 ans. Ça va prendre une foule de décisions aberrantes, administrativement, mais intellectuellement logiques par rapport aux hypothèses qu'on voulait vérifier. On a fait ça durant l'été, 71. Sans qu'on n'aura plus rien à faire. Par exemple, la première décision, on se mettait ici à l'ONF ou on se mettait dans un local. Si on se mettait à l'ONF, on sauverait 25 000. Ou même plus que ça, 30 000 de pétrole, puis il n'y avait pas d'aménagement. C'était payé par l'ONF. On entrait immédiatement dans une grosse production où on formait seulement une petite équipe de rien, une petite équipe. On a décidé de vivre le projet dans toutes ces conditions de départ. Bon, il y a toute une biologie derrière le vidéographe, c'est que il me semblait à ce moment-là que moi j'étais assez loin des contenus. Et j'explicitais jamais les contenus à personne, surtout pas au comité interministériel, ni même à l'ONF. Il m'apparaissait que la mise en place d'une infrastructure de communication, de production et de diffusion qui sont indépendantes des réseaux pourrait permettre l'expression de contenus nouveaux, une circulation de nouveaux contenus, de nouveaux messages à travers le Québec. Tu sais. Puis il y aurait des points de chute quelque part.
C'est quoi l'attitude du comité interministériel face à ça? Il y avait pas des craintes qui s'amorçaient.
Ah ben oui, le comité.
On a parlé dans les journaux, là, de ça deviendrait un organe de propagande séparatiste, de choses comme ça.
Oui, ça a joué, ça, mais je pense que le problème principal ne vient pas de là. Faut faire bien attention au ministériel. D'abord, au niveau financier, c'est des millionnaires. C'est des gars qui se prennent, par exemple, le bonhomme qui est délégué du ministère de la Santé, parce qu'il dépense peut-être $1 million par jour, en signant des formulaires. T'sais. Alors, dépenser de 500 000 ou 25 000 ou 5 000, c'est la même crise d'affaires. Si arrive avec un projet d'un million, ils ne sont pas habitués à penser en termes d'argent. Là où il y était les problèmes, c'était pas là, c'était la difficulté à penser en fonction du système de communication dont on rêve. Ils projetaient sur la magnétoscopie, sur le vidéographe, les approches qu'ils avaient apprises dans le domaine du film, dans le domaine des masses médias. Alors, ils pensaient que le vidéographe serait un instrument de changement social immédiatement, qu'il y aurait des choix de projets en fonction d'une dimension sociale évidente, etc. Alors que nous, on voulait d'abord installer le réseau.
Mais est-ce que ça les alarmait, ça, ou bien s'il y avait une étude très libérale face à ça?
Ça les alarmait en ce sens qu'il n'y avait plus de contrôle. Pourtant, le vidéographe était complètement délégué au vidéographe, c'est de la programmation. Il n'y avait plus de contrôle de l'ONF, il n'y avait plus de contrôle du comité interministériel. Et moi, pour éliminer encore plus les contrôles, j'ai créé une série de comités. Forget ne comprenait pas ce que je faisais durant l'été. Comme je voulais éloigner Forget et de l'ONF et du gouvernement fédéral, là, j'ai créé un comité d'évaluation. Le comité d'évaluation, c'était formé de James Taylor, c'était formé d'une fille de McGill, c'était formé de Colin Lowe, de moi, et d'un gars de Poitiers qui est rendu à Laval, professeur, qui était à ce moment-là au secrétariat d'État. Quand tu crées un comité d'évaluation de quelque chose, il est bien évident que l'objet doit durer pour qu'il y ait une évaluation. Alors pour moi, c'était une façon, d'abord, de créer une éponge, un tampon entre le vidéographe et puis le comité et l'ONF. D'une part, c'était une façon d'avoir des scientifiques, soi-disant, qui, au bout de 5-6 mois, nous diraient, ben, continuez parce qu'on n'est pas évalué. Ça mêlait les cartes encore plus. Alors, ce comité-là a fonctionné pendant 4-5 mois sans jamais rien faire. Il s'est dissous lui-même, sans qu'il ait même été éliminé. Personne n'a envoyé une lettre disant il est fini. Il s'est dissous, simplement.
Qui a permis à Robert Forget de dégager l'affaire administrative et de rentrer au vidéographe.
C'est ça. Et au niveau administratif, j'avais donné à Forget ma préposée au budget, qui est une fille extraordinaire. Mais moi, à ce moment-là, pour moi, le vidéographe était le cœur de Société Nouvelle. Comme Région 80 avait été le cœur de Société Nouvelle au niveau de la réflexion. Le vidéographe devient au niveau technologique, lié avec les cadres, le cœur de Société Nouvelle, et c'est pourquoi je mettais tout le paquet sur le vidéographe à ce moment-là. Alors, je me suis débarrassé de me préposer au budget. Mon bureau, ce moment-là, est complètement tombé parce qu'il n'y avait plus personne. Mais pour moi, Société Nouvelle était terminée à ce moment-là. Les argents, de toute façon, étaient engagés pour 3 ans d'avance. En tant que femme, j'étais déjà engagé. Et j'engageais, mais de façon irréversible. Et tous les autres gros projets étaient engagés.
C'est quoi le processus qui faisait en sorte, après qu'un, après deux ans, je pense que le bibliographe a laissé la voie là, de l'Office national du film?
Ça, c'était prévu. C'était prévu dès le départ du projet que le vidéographe devait s'agbouter sur l'économie naturelle du milieu puis sortir des, de l'administration de l'ONF. Forger, moi, on avait souvent parlé, puis moi, dans ma tête, ça allait de soi. Ça devenait un organisme qui devait être récupéré par le milieu d'une certaine façon. On ne savait pas comment. Mais on ne voulait pas que ça reste à l'ONF. Et c'était incompatible d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as lu le petit texte que j'ai fait avec une fois. Là.
Ouais.
À partir du vidéographe, je raconte les incompatibilités avec l'ONF qu'il y a dans cet organisme-là. Il n'y avait aucune réponse à l'ONF. Tu n'avais pas les services. Ils étaient incapables de, d'affiner cette technologie-là, les systèmes de communication que ça pourrait impliquer, de telle sorte qu'on n'avait plus rien. Et les conditions de gestion devaient changer compte tenu de la technologie qu'on avait, tu sais, il me semble. Alors, c'était prévu. Que ça sorte de l'ONF.
Tu as dit tantôt que dans beaucoup de projets, disons, quand on fait le deal avec le establishment, qu'il y a beaucoup de choses qui sont habituellement implicites, puis qu'à long terme, cette façon-là d'être implicite, ça sert à tout le monde, surtout les gens en place. Est-ce que tu penses que ce n'est pas le cas qui est arrivé? C'est pas la chose qui est arrivée au vidéographe, en fait?
Moi, c'est arrivé à tout le communautaire, pas au vidéographe. C'est arrivé à tout le monde.
Ça serait quoi ta définition là, qui sert plus ce pouvoir?
Bon, avant de te parler de ça, je vais continuer l'histoire. À l'été 71, les gars du ministère des Communications me contactent, à Québec. Moi, je suis au bout de ma corde à l'ONF, je sais que ça fait un an que je suis là. Je vais partir, parce que je sais qu'on n'ira pas beaucoup plus loin de la société nouvelle à ce moment-là. Puis, les gars ont l'expérience besoin d'argent. Les gars du bloc me demandent de l'argent. Tout le monde me demande de l'argent ou du matériel. Puis, on ne peut pas donner d'argent parce qu'on n'a pas besoin de l'expérience. Puis, les ministères ne fonctionnent pas non plus parce qu'avant qu'ils aient compris, ça prend juste un moment qu'ils aient des politiques, des programmes de subvention, ça prend du temps. Juste à ce moment-là, on publie Medium Media qui avait été fait l'hiver précédent, depuis en septembre. Ça a un gros impact, cette affaire-là. Là, les gens du ministère des Communications au Québec m'appellent. On se rencontre finalement beaucoup plus tard, en décembre 71. J'amène Forger avec moi, j'amène Desrosiers qui a fait Medium Media. On va dîner avec le sous-ministre des Communications, Bergeron, super un soir. Avec Julien Aubert, le ministre adjoint, puis leur secrétaire. Puis là, on a fait un deal. Bergeron nous a parlé énormément de ce que le ministère voulait faire. Il nous a demandé ce qu'on faisait. Et puis, il m'a demandé si je pourrais passer au ministère. Là, j'ai démissionné de l'ONF, pour d'autres raisons. Je n'ai pas dit ça, mais je suis passé au ministère de la Communication. Bergeron, lui, à ce moment-là, avait entraîné Radio-Québec comme sous-ministre des Communications. C'était un drôle de bonhomme. Et de Radio-Québec, il voulait faire une sorte de société, la Société Capital Action, une sorte de gros vidéographe, plutôt qu'un organisme de diffusion, qui serait propriété des coopératives, des syndicats, etc., et qui ferait leur production, et qui pourrait utiliser des antennes pour la diffusion si nécessaire. Donc c'était un rêve qu'il avait, c'est de transformer Radio-Québec. Puis il pensait que... Hein? Bon, il pensait que le vidéographe, une épine au fond du vidéographe, un petit peu dans ce sens-là. La deuxième chose qui est bien importante à Québec, c'est qu'ils mettaient la main sur les câbles. Et ça, c'est pas seulement la vie, parce que les gens ne comprennent pas ça. C'est que la régie des services publics, ça a été créé par une loi du Parlement. La réglementation sur la câble de distribution qui est venue immédiatement après, ça a été entérinée par tout le Conseil des ministres, pas seulement par la ville. Puis même nous, ça ne peut plus reculer devant les gestes qui sont posés dans ce domaine-là. Alors prendre le câble, ça voulait dire pour justifier la présence du Québec, non pas prendre la radiodiffusion qui passe par le câble, mais prendre les nouvelles formes d'expression rendues possibles par le câble, mais c'était le communautaire. C'est évident que le Québec était extrêmement choqué d'occuper l'espace dans ce milieu-là. D'autre part, moi, tout le temps que j'ai fait Région 80, mes seuls contacts ont été avec le Québec, au niveau du CR, des CRD, au niveau des affaires municipales, au niveau de l'éducation, au niveau de l'OPDQ, tu sais. Et constamment fait affaire avec les ministères québécois. On avait constamment des rapports, des informations, des fonctionnaires qui étaient là, c'était très très ouvert contrairement au fédéral. Donc les liens étaient déjà faits avec le Québec. Alors, quand je suis passé là pour m'occuper des satellites, mais aussi pour m'occuper du communautaire. Et c'était déjà presque fini, il restait à vendre une sorte de cohérence au Conseil du Trésor. Et donc, préparer les dossiers pour que ça passe, puis un programme de subvention. Et le programme de subvention m'apparaissait intéressant parce que les gens avaient besoin d'argent, et du temps. système communautaire pour pouvoir survivre et s'organiser. Quand je me suis retrouvé au ministère, je me suis retrouvé dans un milieu qui mettait l'accent sur les réseaux abstraction faite des contenus. Dans tous les ministères de communication, c'est comme ça. Si vous lisez bien le livre qu'on a écrit avec Kevin Foy, c'est que j'avais tout écrit que c'était une petite partie que Kevin a faite, j'ai fait constamment la distinction entre les contenus et puis les technologies et les réseaux qu'on pourrait mettre en place. En disant que le rôle du ministère de communication se situait exclusivement au niveau des formes, au niveau des réseaux. Et l'accélération des réseaux, quels que soient les contenus. Les contenus pouvant dépendre du contrôle de l'autre organisme. Et la deuxième chose qui m'apparaissait importante, c'est la délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir, parce que on cherchait des interlocuteurs dans le milieu. Et pour avoir des interlocuteurs dans le milieu, il fallait que Chris Vega vive indépendamment de lui, puis se batte. D'où un programme de subvention assez libéral jusqu'à un certain point, première vue.
Oui, c'était à propos de ce moment-là, la question de ce que tu disais tantôt. En fin de compte, toute cette politique est implicite, parce qu'il n'y a pas vraiment de politique au niveau de la production, au niveau des contenus. Donc, c'est toujours implicite dans un geste relativement libéral. En quoi ça aide plus le pouvoir?
Ben, c'est que quand c'est implicite, c'est facilement récupéré. Le cas de Saint-Jérôme est intéressant dans ce cas, dans ce sens-là. En aucun moment, on a... tu vois, quand tu dis Couron, quand tu dis Bouvette, moi, c'est des approches qui ne m'intéressent pas. Parce que c'est des approches qui voient le communautaire de l'extérieur, le juge de l'extérieur avec des schémas marxistes, et qui, au dernier chapitre, disent « Mais le communautaire, c'est bon. » Au lieu de partir de la pratique du communautaire, ce serait quoi un projet communautaire? À quelles conditions l'Abitibi, par exemple, est-elle viable? C'est les gars de l'Abitibi sont arrivés là en 29, 30. C'est absolument non viable selon les lois économiques actuelles. On devrait fermer ça. Les gens décident de rester. Bon. C'est marginal par rapport au continent nord-américain, c'est marginal par rapport à Montréal. Lequel est déjà marginal par rapport au continent nord-américain? À quelles conditions l'Abitibi est-elle viable? Pourrait-elle vivre? Ça prend un changement des conditions politiques de base. Un changement dans le consensus politique. Un changement au niveau des valeurs. Un changement au niveau économique. Sans quoi, s'il n'y a pas de doute. Quand tu laisses implicite les projets, l'explicitation de la pratique qu'on devrait mener pour en arriver à rendre l'Abitibi viable devient extrêmement obscure. Et ce que je reproche à Bouvette,
parce que dépend de la formulation
que vous dites, c'est ça. Aussi, c'est que quand tu fais de l'action, tu travailles toujours par osmose aussi. Donc, tu acceptes l'idéologie des gens avec qui tu travailles. Tu acceptes, tu es obligé de travailler par consensus quand tu fais de l'action. Mais c'est pas ça, c'est que si tu as explicité ton projet, tu choisis la strate sociale avec laquelle tu travailles, ton groupe avec lequel tu travailles aussi. Et tu choisis, tu peux éliminer ce moment-là et t'es. Parce que le projet communautaire, il peut impliquer, il peut être valable en tant qu'intention, si tu en fais tu peux en tirer une stratégie, mais à la condition que tu puisses l'expliciter jusqu'au bout, puis essayer d'en dégager les conditions de survie d'une pratique qui soit efficace. Et là, tu peux revenir au choix technologique, après coup, et dire, la TVC, à cause du pluralisme qu'elle implique, à cause de toute l'idéologie dans laquelle elle est inscrite, n'est pas viable.
Sous-entend une pratique à long terme.
Ben oui.
Mais non.
Ils entendent aussi qu'une pratique à long terme n'est pas nécessairement basée sur une source de financement venant des ministères, dans la mesure où la pratique à long terme vérifie les hypothèses qu'il va y avoir des. Il pourrait, ça pourrait articuler ou générer des changements sociaux qui seraient importants pendant que le gouvernement coupe ses subventions.
Ben évidemment. Exactement.
Normalement, à cette époque-là, à l'époque où tu étais aux subventions, tu avais déballé le projet des subventions. C'est passé quelque chose entre les groupes et vous autres. Mm-hmm. Ce qui s'est passé, c'est que les groupes ont demandé une part d'un premier temps d'autogestion. Dans le second temps, je pense qu'il a demandé de toute façon pour avoir l'autogestion. Mais il a demandé l'autogestion. Et ça a été les réunions houleuses de Lévis. Tu pourrais-tu me parler un peu de ça?
Alors, nous autres, on arrive avec un petit 400 000, 380 000 $ qu'on a réussi à tirer du Conseil du Trésor. C'est pas beaucoup. Ça implique une subvention qu'on a tirée pour le vidéographe aussi. vidéographe dans la tête devait rentrer dans les développements, pas dans le game d'intérêt cependant. Mais on l'a eu, et puis à part, c'est, mais c'est pour le vidéographe. Bon. Quand les gars demandaient l'autogestion à Québec, à Lévis, moi ça m'a pas fait peur du tout. Mais j'aurais dit, à ce moment-là, très vite, il n'y a même pas la co-gestion au gouvernement, à nulle part, tu sais. Ben, avec l'autogestion, vous allez moins pas mal. Et la deuxième chose, il y a des structures de mise en place, en espèce de gouvernement-là, de contrôle de l'argent qui se dépense aussi. C'est déjà des structures formelles, conseil du trésor, parlement, etc., etc. Faut que ça passe par là. Et ça, c'est difficile. La troisième question, parce que si je me mets à poser des questions sur votre représentativité, c'est tellement fragile que tout va se débattir tout de suite. Vous faites ce que vous voulez. Le lendemain, ça devait avoir fini, j'ai dit ça va être bien drôle. Soyez mûrs politiquement parce qu'il passe par un processus pédagogique, les gars. Il est venu dans les faire à trembler comme ça. À un moment donné, ils ont demandé d'avoir le contrôle de, d'avoir tout l'argent, d'avoir le contrôle sur les subventions.
On a plus notre budget.
Votre budget, oui. Moi, je me disais, ça, s'ils font ça, c'est fini, parce qu'ils vont se faire des ennemis partout, 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 partout. Tous les gars qui ne donnent pas l'argent. C'était tant que le gouvernement, tu sais, quand tu ne donnes pas l'argent à un groupe, les groupes arrivent tout de suite, et les gars, d'ailleurs, ils crient aux députés, puis ils étaient constamment pris avec ça. Ils passent par la côté, bon, c'est pas bien. C'est bien de déléguer ça à un organisme qui est complètement indépendant.
L'histoire de la grenade.
C'est ça. Puis, à l'art, on comprend tout seul, tout le processus. De ne pas prendre nos yeux, de refuser les subventions de quelqu'un, de ne pas prendre nos yeux de, dans le contexte politique dans lequel on était, de faire soi-disant autogestion alors qu'il n'y en avait pas. Et de ne pas prendre nos yeux de, d'assumer le programme du ministère. Ça s'est fait tout seul, c'est sans qu'on ait à intervenir avec eux.
Sauf que...
Mais moi, je savais que ça serait comme ça.
Sauf qu'à cette époque-là, il existait déjà une dissension au sein du vidéographe par rapport aux médias communautaires.
Ben oui.
Je me souviens à Réunion, en tout cas, pas pour y avoir été, mais à Réunion de Lévis, ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, le vidéographe était considéré un peu comme un gros méchant qui arrivait à manger la subvention. Toi, tu parles de l'ONF. Tu arrives à Québec. Ton bébé, c'est le vidéographe. Tu arrives à Québec.
Avec beaucoup de réticence. Hein?
Oui, mais ton bébé, c'est quand même le vidéographe. Là, je veux dire, on s'en tient là, à ce qui se passe. D'après toi, la plaque de Société Nouvelle à cette époque-là, c'est le vidéographe. Tu arrives à Québec. Je veux dire, on se posait la question. Dans le fond, normalement.
Bonjour.
Médiane, Gérard, là, vous connaissez Gérard Henry, Yves Chaput.
Yves Chaput. C'est lui.
Comme ça, même chose. Je pense que c'est lui de sa carrière. Ça n'a pas été une des lacunes, ce vidéographe, de toujours jouer, disons, sur une espèce d'implicité dans son fonctionnement, mais dans ses objectifs réels.
Bon, c'est la lacune et c'est l'avantage de la plupart des projets technologiques. De ne pas expliciter ses contenus. C'est un avantage.
Sans les expliciter, ça a été sur deux niveaux. Ils ne les ont pas explicités pour avoir des subventions, mais ils ne les ont pas explicités non plus dans l'opérationnalisation, c'est-à-dire dans leur relation avec la société.
C'est ça.
Est-ce que c'est un avantage pour toi ou non?
C'est, pour les technologues, c'est un avantage et c'est un désavantage. C'est un avantage en ce sens que Forget et les technologues en général, c'est des vendeurs de technologie. Puis la façon dont une technologie s'enracine dans un milieu, il est digéré par le milieu, tu ne peux pas prévoir à l'avance les fonctions qu'elle va remplir. Les TVC, par exemple, qui survivent le mieux, c'est les TVC qui sont assis sur des fonctions de loisirs, si tu regardes de près. Ça ne veut pas dire que le loisir est négatif. Il peut être utilisé comme stratégie de développement aussi. C'est. Mais moi, j'ai toujours eu des conflits associés aux nouvelles entre les animateurs sociaux et les cinéastes. Il y a tout le temps des conflits. L'animateur social, le pédagogue, a toujours un but précis, un objectif précis, alors que l'autre en a pas. T'sais. L'autre est dans l'implicite tout le temps. Ouais. Mais l'autre est aussi efficace aussi. Le gars qui est en technologie, comme Forget, lui, se dit qu'il prend sa stratégie pour Saint-Jérôme. Il n'a pas prévu de projet communautaire, il n'a pas prévu de contenu. Il s'est dit, on va enseigner l'animateur. Une première semaine, 10 jours, on va mettre le paquet, tout ce qui peut passer sur les ondes, on va le passer. Puis là, on va arrêter un petit peu, on va faire un autre 3 mois où les sortes de gars d'extérieur vont mettre le paquet encore une fois, avec des films de Radio-Québec, de l'OMF, de Radio-Canada, du direct, sur l'expérience, et les gens décideront. Il n'a pas décidé des fonctions que ça remplirait. Puis effectivement, si tu prends une technologie comme la CARM, quelles sont les fonctions que ça va remplir? Tu sais pas. Ça peut en remplir plusieurs. Et tu peux avoir une attitude non directrice, non dirigiste, qui peut capter des fonctions qu'elle n'est pas prévue. Ça prend seulement une autre stratégie, ce moment-là d'ouverture, de libération d'énergie, de lieu d'accueil, etc. Ce que Saint-Jérôme n'a pas fait non plus. Mais si Forget était là.
Composer avec les nouvelles orientations.
C'est ça. C'est l'attitude générale, ça, de Robert, de tous les gars qui ont un point de vue d'abord technologique. C'est pas dire la technologie transporte pas un contenu, par exemple. Mm. Et c'est là qu'on doit juger. T'sais. Le désavantage de ça, c'est que tu ne peux pas élaborer de projet autre qu'un projet technologique. Par exemple, à Saint-Jérôme, on n'a jamais essayé de définir ce que c'était du communautaire, d'essayer d'en voir les conditions, puis de donc choisir les strates sociales desquelles on travaillera au départ, et même les technologies avec lesquelles on pourrait travailler. Si le communautaire pour exister exige un changement social global, ben c'est peut-être l'action politique qui est meilleure, tu sais, au niveau de l'action.
Donc, il faut laisser la technologie remplir un peu le rôle du contenu, en ce sens que le médium peut arriver à l'évolution d'un certain type de vie par son usage quotidien.
Non, c'est pas ça que je dis qu'il y a deux... Moi, je ne marcherais pas dans l'attitude de Robert.
C'est pas seulement, je pense, l'attitude de Robert là-dedans, c'est l'attitude d'à peu près tout le monde qui travaille au niveau de l'expansion, disons, des moyens de communication actuellement.
C'est ça, oui.
Donc, une expérience de réseau communautaire réel axé sur un contenu réel de changement politique serait vouée à un échec complet actuellement au Québec.
À moins que ce soit avec des partisans et des groupes communautaires, j'ai l'impression. À moins qu'il y ait déjà un consensus sur ce qu'on vit.
C'est comme ça que j'interpréterais le fait, par exemple, qu'on a coupé le CDMC dans son budget cette année.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gouvernements n'ont jamais une cohérence explicite non plus. Elle est toujours implicite. Il y a une cohérence. Ouais. Extrêmement,
c'est pour ça que c'est
un oui. Il y a toujours une cohérence, mais elle est jamais, tu peux pas trouver de texte pour savoir comment ils ont agi. T'sais. Tu peux pas trouver de formulation explicite des raisons pour lesquelles ils ont agi de cette façon-là. Il y a toujours des anecdotes. Mais au fond, il y a une cohérence. Et j'ai l'impression que la tendance du ministère depuis que je suis parti, ça a été de récupérer les pouvoirs. Ça s'est passé à tous les niveaux. Par exemple, au niveau des communications spatiales avec la France. Moi, j'avais délégué ça à l'extérieur du gouvernement et du ministère. La raison pour laquelle j'avais délégué ça à l'extérieur, c'est-à-dire au siège social de l'Université du Québec et même pas dans l'enseignement universel du QAM, c'était pour des raisons essentiellement politiques. C'était que au siège social, tu avais des gars qui représentaient de la force centripète de l'université contre les forces centrifuges qui sont dans les constituants et qui étaient en train de prendre en main, au niveau du développement de la maîtrise, des moyens de communication de l'Université du Québec. C'est par les moyens de communication, l'informatique, les banques de données, le réseau téléphonique, les téléconférences, les cours à distance qui ont contrôlé l'université. Au point tel qu'aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de recherches qui s'en vont du QAM, qui s'en vont de Trois-Rivières, qui s'en vont à l'INRS, qui passent par le siège social d'abord. Ils sont négociés par eux. Alors, c'est pourquoi j'ai placé ça là, d'une part. L'autre raison, c'est que je voulais, et non pas dans une université qui fait de la recherche, l'autre raison, c'est que je voulais que le programme soit indépendant des aléas de la volonté politique de Bourassa. Alors, si tu mettais ça dans un lieu qui est indépendant du gouvernement, ce lieu-là établissait des liens fonctionnels avec les partenaires français et créait une programmation, créait un projet qui avait une structure à long terme ou au moins à moyen terme qui ne pouvait pas être autorisée facilement par le gouvernement. Dès que je suis parti, la première, et là j'avais même mis la recherche à l'extérieur du ministère d'évaluation. Dès que je suis parti, tout ce qu'on a fait, on n'a pas compris, on a toujours rapatrié ça au ministère de l'Instance qui s'est tombé quelques temps après. Parce que là, la volonté politique pouvait jouer, et s'il n'y a plus de volonté, ça tombe. Dans le domaine du communautaire, une chose qui m'apparaissait essentielle, c'était que ce ne soit pas le ministère qui donne les services. J'avais vu ce que ça donnait avec l'ONF. J'avais vu le secrétariat d'État qui s'apprêtait à un moment donné, en 1971, à donner des services de l'ONF dans les régions avec des centres d'équipement. Et je ne voulais pas que ça appartienne au ministère. Je ne voulais pas que les bureaux régionaux embarquent dans ça aussi. Les bureaux régionaux du ministère qui étaient très présents en 1971-1972. Et je ne voulais pas que ce soit les ingénieurs du ministère qui donnent des conseils et qui donnent l'information. À cause de ce que j'avais vu au fédéral, et par une sorte de nécessité de que les gens s'organisent eux-mêmes. D'où le CDMC, aussi. Mais ce qui s'est passé, j'ai regardé ça cet hiver, c'est qu'il y a de plus en plus de fonctions dans nos ministères. Les quatre fois de même, c'est toutes sortes de groupes qui écrivent au ministère, les gars donnent des services par les régions, par les ingénieurs qui sont là, par l'amont, par Carine, qui sont constamment présents. Il y a deux, trois gars qui rentrent actuellement. De telle sorte qu'ils sont devenus plus présents, je pense certainement, que c'est les MC, même s'ils ne participaient pas aux réunions, qui organisaient plus de réunions. Une présence directe. Et j'ai l'impression que c'est surtout pour ça. Ils se sont demandé, au niveau d'anecdote, au niveau de ce que c'est, ils se sont demandé ce que c'est les MC faisaient exactement. Compte tenu des pressions qu'ils avaient des groupes qui existaient, des liens directs qu'ils avaient avec les groupes, et qu'ils ont intensifiés depuis un an. Derrière ça, il est évident que je ne pense pas que le gouvernement veuille jamais la naissance d'un réseau complètement parallèle indépendant.
Et c'est quoi l'avenir du CDMC? Ou l'avenir, plutôt, disons, du CDMC ou des médias communautaires?
Ça dépend comment tu vois les médias communautaires. C'est quoi les médias communautaires?
Ben d'abord, je te posais une question. C'est quoi ta perception de la lutte pour la grande distribution?
Tu veux dire quoi, là?
En ce sens que tu penses que c'est un faux débat sur les médias communautaires ou c'est un débat économique qu'on essaie de replacer au niveau de l'intérêt des médias communautaires?
La lutte à la distribution, à quelle lutte fait-elle?
Au niveau de la juridiction fédérale provinciale.
Ah, ça n'a rien à voir aux médias communautaires, je pense, fondamentalement.
Mais on n'essaie pas de montrer beaucoup le fameux distributeur comme un bonhomme qui donne des services de médias communautaires.
Le Québec fait ça actuellement parce qu'il est forcé de le faire.
Parce que
c'est sa seule plateforme, parce que la radiodiffusion relève du fédéral. Donc, ils ont mis dès le départ l'accent sur toutes les autres fonctions, tous les autres services que pourrait rendre le cadre distributeur. Et si tu regardes la réglementation de la régie, il n'y a rien qui va à l'encontre du CRTC. Quant à la radiodiffusion, ils n'ont pas touché. Ils ont touché seulement aux autres secteurs, qui à l'obtention des permis, aux licences de câble de distribution. Mais pour ce qui est de la radiodiffusion, ils ont dit que ça va au CRTC, ça lui appartient, on va pas intervenir. Il va l'intervenir, évidemment, mais il ne va pas intervenir tout de suite sur ça.
La vie avait commencé à créditer des groupes pour intervenir sur la diffusion de l'opérateur, je
crois. La régie.
Ouais, la régie, c'est ça. C'était quoi,
ce qui est un motif? Si tu te reportes à la réglementation, là, il faut revenir encore à l'histoire. Quand la réglementation était faite, elle n'a pas été faite par les gars du communautaire pour tout. Moi, j'ai vu la réglementation, elle était déjà faite. J'étais en crise quand ils avaient fait la distinction entre local et communautaire, c'est parce qu'ils ne s'existent pas à un moment donné.
Par
le gouvernement? Par le gouvernement du Québec. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont fait la réglementation? Ils ont pris la réglementation du fédéral. L'énoncé politique du fédéral, les quelques règlements qui existaient, ils ont mis ça d'un côté. De l'autre côté, ils ont essayé de rendre ça plus formel parce que la régie est légale, contrairement au CRTC, qui est simplement une délégation de pouvoir, puis ils ont essayé de mettre ça en règlement. Ils ont copié presque complètement ce qui se passe, la réglementation fédérale, il n'y a presque pas de changement. Ils ont gardé même les distinctions de Juneau en les formalisant juridiquement, entre communautaires, locales, etc. Ils ont tout gardé ça. Ça avait été élaboré au fédéral d'abord. Ça. Et ça s'est fait en catimini dans le bureau de l'Allier par des avocats et un notaire, qui est maintenant à la régie, qui n'a jamais consulté personne.
C'est quoi le morceau de gâteau à part la juridiction qu'on essaie de s'arracher au bout de la juridiction?
Ben, c'est que le Québec veut, et c'est pas seulement Bourassa, c'est pas lié à Bourassa, c'est lié à la logique même du Québec, l'ensemble des pouvoirs et communications, y compris la radiodiffusion. La câble distribution était tout simplement un lieu extrêmement critique. La raison pour ça est très simple. Les premiers câbles sont arrivés en 1952. Le fédéral n'a jamais réglementé le câble jusqu'à la loi de la radiodiffusion. Les premiers au fédéral...
Ce n'est pas encore réglementé.
Ce n'est pas encore complètement.
Ils ont fait des énoncés politiques, ils n'ont pas...
C'est même pas inscrit dans la loi de la radiodiffusion. Et les premiers qui ont parlé du câble, c'est le rapport Fowler en 1964. Qui a dit on ne peut pas maintenant parler de radiodiffusion sans tenir compte du câble. Parce qu'il importe les stations de partout. T'sais. C'est seulement en 1968, après la loi de la radiodiffusion, que le CRTC s'est penché immédiatement sur la question du câble. Au même moment, le Québec commençait. Donc, tu avais tout un secteur porteur d'avenir dans le domaine des télécommunications et les communications, qui était un câble de distribution sur lequel le fédéral avait établi très peu de précédents. Et qui, juridiquement, était extrêmement, pour lesquels la position fédérale était juridiquement très contestable. Je connais les concepts juridiques sur lesquels se base le fédéral pour entrer dans la diffusion en câble de distribution. Il n'est même pas sûr que la radiodiffusion relève du fédéral. Si on va au conseil en cour suprême, c'est bien qu'on va perdre. Mais au procès de 32 en cour privée, au conseil privé de Londres, il n'y a jamais été question de radiodiffusion, mais de radioélectricité, de radiocommunication. La première loi sur la radiodiffusion, c'est à chaud que le passant avait fait, même pas au fédéral à ce moment-là. Il y avait le CN qui faisait Radio-Canada, le Collégien National, il y avait des stations, des permis émis par le fédéral, mais parce que les ondes relevaient du fédéral. Et en 29, Tachaud VHC s'est cassé et transaction était faite. C'est le de l'opérationnaliser, c'est tout. Et il n'y a pas assez de lois sur la radiodiffusion qui aurait été opérationnalisée par CKAC à ce moment-là. Et puis, au même moment, il y a eu le malheur de taxer des postes récepteurs. Le fédéral a fait un procès, non pas sur la loi de Tachereau, comme il n'a jamais fait de procès sur la loi du PC créant Radio-Québec, mais sur la taxation des récepteurs, en disant la radiodiffusion nous appartient. Là, l'Ontario, Manitoba, puis le Québec, il y a eu un procès, et le procès est perdu. Parce que les avocats du Québec ont joué seulement sur le fait qu'il y avait le droit de taxer les récepteurs. Le fédéral a dit non, ça relève les radiocommunications, ça capte des ondes qui viennent qui sont extraterritoriales, extra-provinciales, donc ça relève du fédéral. Le conseil privé, c'est tout ce qui est les radiocommunications relève du fédéral. Eux en ont déduit que la radiodiffusion leur appartenait. C'est les contenus, la structure des stations, l'obtention des licences pour la programmation, etc. Mais le premier conseil d'administration de Radio-Canada comprenait un représentant de chaque province. Lesquels ont jamais été nommés de toute façon. Et au deuxième conseil d'administration. Et puis c'était la crise économique, il faut se mettre dans le contexte. Le Canada était beaucoup plus intéressé par la radiodiffusion que les provinces à ce moment-là, à cause de l'envahissement américain. Il faut connaître l'histoire de Radio-Canada, qui est une histoire absolument extraordinaire. La façon dont ils ont pris le contrôle du réseau, surtout au Canada anglais, c'était oui. Toutes les stations de radio étaient reliées aux grandes chaînes américaines. Ce que Radio-Canada a fait, après sa création, ça a d'abord été créé au CN, parce que la radio venait du télégraphe. Et puis on avait mis un émetteur à Montréal, à Ottawa, puis à Toronto, et puis il y avait des récepteurs dans les wagons, il n'y avait plus de voyageurs, parce qu'il faisait de la musique, il faisait des émissions. L'autre raison, c'est que les compagnies de chemin de fer, à ce moment-là, avaient des grands hôtels, des orchestres. Par exemple, au Château d'Orient, il n'y avait pas de disques, il y avait tout en direct. Alors, il y avait des grandes soirées musicales, des opéras, etc., qui venaient des CN. C'est de 20 à 30, à 32, à peu près. Et quand Radio-Canada a été créé, comme il y avait à ce moment-là une absence de réseau canadien, et comme toute station était reliée aux États-Unis, ils ont eu une politique absolument fulgurante, ça s'est fait en 2 ans, avec une agressivité et une intelligence absolument extraordinaire au niveau commercial. Ils ont décidé de donner aux stations privées une programmation gratuite, de grand réseau. À ce moment-là, s'ils constituaient un réseau, ils pouvaient aller chercher de l'annonce, un petit peu. Et la grande annonce réseau, c'est pour tout le Canada. Puis ils allaient chercher le Metropolitan Opera House, ils allaient chercher, c'était toujours en direct, ils allaient chercher de grandes émissions américaines, comme ça, qui étaient aussi internationales, et les donnaient au poste privé. Et quand ils passaient de la réclame, ils donnaient une partie de la réclame au poste privé. C'est qu'ils sauvaient les postes privés, c'est qu'ils les reliaient à un réseau canadien, les coupaient des réseaux américains, et leur permettaient de l'argent. Et leur permettaient une émission purement locale. C'est pas le Canada jamais été dans. C'est jamais régionalisé aussi. En 36, c'était la vie. Le Canada a eu une politique extrêmement claire, anti-américaine, en radiodiffusion, qui a été constante. Il a toujours été anti-canadien, anti-américain, le Canada, bien plus que les problèmes. Et dans ce sens-là, c'est compréhensible, puis j'ai pris la main sur toute la radiodiffusion très vite, et avec une extrême efficacité. Et Radio-Canada a été très efficace.
Dans quel sens, Normand, d'après toi, le contentieux fédéral et provincial a joué sur, par exemple, le développement des politiques des médias au Québec. Je pense entre autres au câble, qui passe, on commence à le voir, mais aux médias communautaires.
Yep.
Par exemple, l'allié a fait une réunion il n'y a pas longtemps pour essayer de voir où étaient ses alliés dans la question de Radio-Québec. Il y a eu de sortes de tractations, mais on s'aperçoit que, dans le fond, le ministère de la Communication est un ministère nationaliste, avec un front péquiste. Il vient de partir, mais le ministère nationaliste est un front péquiste. Partant de là, je veux dire, ça influence tout le développement des communications au Québec dans ce sens-là. Et jusqu'à quel point, dans le fond, les groupes ne sont pas tolérés en fonction de leur appui éventuel à une bataille provinciale fédérale.
Bon, d'abord, je pense pas que la réflexion qui s'est faite sur le communautaire soit liée au contentieux fédéral provincial. Ils sont situés en dessous, là. Je pense pas. Moi, quand j'étais au ministère, tout l'aspect fédéral provincial m'intéressait beaucoup. Mais quand je réfléchissais au TDC, c'était beaucoup plus en termes d'efficacité. Il y a pas, pour moi, il n'y avait pas de plan fédéral possible. Tu ne pouvais pas t'entendre les gars de l'envoyer. Tu ne pouvais pas t'entendre. On a essayé pendant un an au fédéral de former un comité interministériel parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour essayer d'arriver à un programme de subvention dans ce domaine-là. On n'a jamais réussi. Parce qu'il y a des luttes interministérielles extraordinaires. Il y a tellement de différences entre les régions, c'est qu'il n'y a rien à faire. Puis à chaque, tout le temps que j'étais à Société Nouvelle, mon seul point d'attaque, c'était le Québec, tout le temps.
Oui, mais bon. Juste une autre question en rapport à ça. Tu disais tantôt, le Québec a voulu, après que je suis parti du ministère des Communications, le Québec a voulu tout centraliser. Est-ce que dans le fond, dans une bataille contre le fédéral, on n'a pas intérêt à tout centraliser et à contrôler tous les paramètres pour faire une bataille... Moi, c'est la question que je me pose. En fait, politiquement, au-dessus de ça, si on centralise, dans le fond, on a toute notre armée derrière nous autres pour pouvoir mener une bataille face au fédéral. On contrôle en partie le développement aussi.
Je pense que la centralisation s'est faite en fonction d'une logique administrative, d'une logique naturelle aux grands organismes centralisés, décentralisés. C'est une habitude qu'ils ont centralisée. Ils ne savent pas déléguer, ils ne sont pas capables. Surtout dans le contexte de Bourassa, où il y a une centralisation de plus en plus poussée. Bourassa a centralisé son bureau en arrivant là. Les ministères ont perdu une foule de leur pouvoir.
Sauf la justice en même
temps. Oui, c'est choquant. La centralisation est incroyable au gouvernement du Québec. J'ai l'impression que c'est une tendance naturelle des fonctionnaires. Ça ne va même pas à la ligue. C'est les gars, là. Pour les satellites, tu ne peux pas savoir que je me suis battu contre les gars qui étaient là, contre les ingénieurs qui étaient là, qui voulaient tout rapatrier chez eux. Parce qu'ils veulent avoir du travail à faire. Hein. Ils veulent se sentir en communication de le monde. Je pense qu'il y a d'autres facteurs beaucoup plus subtils, là, beaucoup plus liés au quotidien que ces facteurs politiques qui jouent. Et je pense, il est évident que dans un plan à long terme, quand on a pensé aux communautaires à Québec, sans que ça ait jamais été explicite dans les textes, on en a parlé, j'en ai parlé souvent avec l'ami, on tenait compte de Radio-Québec. On tenait compte de la nécessité de renouer avec les régions, permettre aux régions d'avoir une plus grande existence. L'allié était comme ça, pas mal, dans sa activité politique. Il est évident qu'on voulait prendre la place, occuper le terrain dans le fédéral aussi. Devenir, plus que le fédéral, l'interlocuteur naturel des groupes. Parce que quand tu veux occuper l'espace au niveau politique, c'est évident que tu dois faire ça. Ça, ça a joué. Mais quand tu allais devoir prendre le livre qu'on a fait, le petit rapport, les mémoires, sur les médias communautaires, on essayait de voir un petit peu où ça allait, en tant que tel, et sans référence au contentieux. Il est évident qu'objectivement, l'appui des groupes populaires va aider le gouvernement du Québec. Ça, ça va de soi.
Mais
on a même fait attention pour que les subventions puissent venir de partout. Et là, c'est le fédéral qui s'est trompé. Quand moi, je travaillais avec Bergeron, puis aussi après avec Rompré, on a eu souvent la discussion, est-ce qu'on va laisser le vidéographe libre d'avoir des subventions de partout? Est-ce qu'on va laisser le CDMC libre d'avoir des subventions de partout? Qu'on a fait tout en conséquence pour que les gens puissent être ouverts aux subventions du secrétariat d'État. Pour pas qu'il soit le jeu du conflit, mais pas qu'il soit mis un seul gouvernement. C'est une multitude de sources de financement. Et ça, pour nous, ça nous apparaissait la clé de l'autonomie du groupe. Il y a accès à plusieurs portes. Le fédéral a eu peur. Il a cru qu'on mettait la main. Et qu'il a fait l'erreur politique de stratégie. Il a signé un pilonné de subvention directe. Je pense qu'il n'a pas compris notre action à ce moment-là. Et ça, ça avait été très, très, très explicite qu'on laissait l'ouverture complète à d'autres sortes de financements qu'on finit le financement du Québec.
Après avoir fait le tour de tout ça, moi j'avais envie de te poser une question, c'est celle qu'on t'a posée tantôt, là. C'est les médias communautaires, ça s'en va où d'après toi?
C'est pas possible. Y a-t-il une place pour les médias communautaires?
Ça dépend ce qu'on entend. Et tu peux avoir sur les médias communautaires un concept purement technologique. En ce sens que tu peux dire que, compte tenu du fait qu'il y a des plus de réseaux de diffusion par le câble, par le drop-in que tu peux faire dans le domaine des ondes, ou par le magnétoscope tel que tu peux voir seul, ou en bureau, tu as plus accès qu'avant à plusieurs canaux de diffusion. Tu as plus de choix, tu peux avoir plus de choix. Comme tu peux dire d'autre part que les coûts de production peuvent un petit peu s'abaisser si tu changes les règles du jeu de la gestion, si tu élimines les droits d'auteur, si tu fabriques sur support moins coûteux que le film, par exemple. Tu peux dire qu'il peut y avoir donc une possibilité de mettre d'autres messages sur les supports, donc multiplier les messages qui peuvent aller sur les supports, et là tu ne fais pas de jugement sur les contenus. Et tu peux dire qu'il y a des gens, et plus de gens peuvent actionner d'autres réseaux, d'autres canaux de diffusion. Des grands canaux. Donc, il y a une réalité là, au niveau technologique, au niveau de la mise en place d'un système de circulation de comme message. La question qui a à se poser après coup, quand on a analysé ces réseaux-là potentiels, qui sont rendus potentiels par la technologie, c'est à quoi ils servent? Quel type de système de communication ils créent? Quand il y a un système de communication, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pige quelque chose quelque part, que quelqu'un qui voit un message, puis qui en fasse quelque chose, puis qui l'interprète. Alors pour revenir au communautaire, j'ai comme l'impression que si tu prends seulement le palier technologique, tu sais, la possibilité d'avoir un nouveau palier de communication, une nouvelle circulation de documents, une nouvelle production de messages, que là il y a une réalité qui va continuer d'exister. Quelle forme elle va prendre, je ne sais pas. Mais ça va continuer. Si tu te situes à un niveau d'efficacité politique, et je pense que quand on parle de communautaire, le communautaire implique toujours une autre dimension que la dimension technologique, une dimension politique. Puis ça, dès le départ, ça implique une dimension politique parce que c'est né en contestation dans des masses médias, c'est né dans un souci de renouer avec les petits gros qui sont marginaux dans la société actuelle. On n'a jamais développé ce que ça voulait dire au niveau des dimensions politiques, là. Mais il y a des gens qui ont commencé à le faire. Si tu situes à ce niveau-là, l'avenir des médias communautaires est lié seulement à l'explicitation que les gars vont pouvoir faire et qui ont commencé à faire, comme ils l'ont fait, comme bien du monde l'a fait, des objectifs qui étaient sous achat à l'intention communautaire et qui étaient des objectifs qui impliquent un changement du consensus social. En Chine, communautaire serait viable. C'est ce que je veux dire. Et là, tu dois revenir sur l'analyse des choix initiaux que tu as fait au niveau des technologies. C'est peut-être bien mieux de travailler comme bureau, dans un petit groupe, dans une usine, que d'aller faire la TVC. Mais c'est une question d'analyse politique et d'analyse stratégique que tu dois faire, de pratique.
Tu penses-tu qu'au niveau du type de message, des contenus, du type d'utilisation qu'on fait, disons, des documents télévisuels, la naissance de la vidéoscopie, en fin de compte, demi-pouce, ou de son utilisation, a avorté peut-être la création d'un cinéma plus parallèle et plus régional au Québec?
Je ne sais pas. Le cinéma, là, on a essayé. Quand les gars de Région 80 sont partis à Région 80, la première chose que j'ai vue, moi, je dis pas bien. Tu allais faire soi-disant du film là-bas. Ils voulaient faire du film et les inscrire immédiatement dans des réseaux de communication. C'est-à-dire, par exemple, la UCC. Ils font circuler le film, prennent les réactions, remontent le film, tu sais, pour que ça aille vite dans des réseaux de communication du genre. Alors, je les ai vus là-bas, ça coûtait une fortune. Le film était envoyé à Montréal, au laboratoire. Il y a très peu de laboratoires dans les régions. Il y a scrutiné d'un petit qui est très mauvais. Puis, ils envoient ça à Québec, où c'est mauvais aussi, mais à Montréal, c'est ici que sont les laboratoires. Le processus est extrêmement long. C'est une quinzaine de jours avant que tu aies ta pellicule. Là, tu es obligé de monter, c'est extrêmement long parce que tu montes sur une copie positive, tu dois aller sur une négative première avec copie, c'est extrêmement coûteux. C'est le temps qui rend la chose impossible dans les types de messages qu'on veut rapide, qu'on veut presque lier
à
l'instantané.
Prêt à porter, prêt à jeter.
Oui, presque. Bon. Le film suppose une autre approche. À chaque fois qu'on a utilisé le film dans des approches temporelles où on voulait l'utiliser pour le magnétoscope, ça coûte très cher, ça coûte trop cher, c'est trop long, ça marche pas. Alors quand tu rentres dans le film, il faut que tu joues l'autre jeu, un jeu de axé sur l'expression, sur la condensation des messages, densification des messages. Et
c'est juste un détriment ça, vidéo, par exemple, cette espèce d'utilisation très très immédiate qu'on veut en faire à long terme. Parce que ça n'a pas tendance à discréditer le médium au niveau de son contenu, au niveau de l'image.
Ça dépend. J'ai regardé les gars à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, tu peux faire du live tout le temps. Puis de partout. Tu sais. Comment analyser, comment utiliser le live, le direct, dans une stratégie de changement, une stratégie éducative, par exemple, une stratégie politique? Ça n'a pas été fait. Comment trouver, quand on me s'occupait des satellites, la première chose que j'ai analysée, c'est l'instantanéité. C'est quoi qu'on pouvait mettre comme contenu entre la France et le Québec qui suppose une dimension dramatique, tu sais, quelque chose qui se passe pendant une heure, tu sais, en instantané. Ces recherches-là ont très très peu été faites sur le terrain. Tu sais. Puis j'ai comme l'impression que même dans le live, là tu n'as même plus besoin de la représentation d'un support, tu sais, ça se passe. Il y a des stratégies à mettre au point, il y a des tactiques à mettre au point, c'est à utiliser, c'est un moyen à utiliser, ça n'a pas été fait. Dans la magnétoscopie, ça a été fait un petit peu plus, mais ça n'empêche pas qu'on fasse avec ce magnétoscope des œuvres d'antiquité aussi. Ça n'empêche pas que tu prennes des films, tu les mets sur cassette pour les diffuser, puis en partie, etc.
Mais si tu prends par exemple, tu décris une lourdeur au niveau du film, est-ce que le magnétoscope aussi, puis le micro, ça n'a pas tendance à devenir lourd avec Saint-Jérôme?
Ah bien évidemment, c'est...
Oui,
c'est clair.
C'est lourd. Je sais pas, moi j'ai pris...
L'évaluation, c'est
bien long. J'ai pas fait l'évaluation dans ce sens. Ça demande la programmation, tout ce que j'ai fait, moi. Ça a été de prendre, d'une part, le potentiel technique, d'un côté, les possibilités d'utilisation qu'on avait, du live, l'extérieur des studios, avec le cadre, etc. J'ai pris de l'autre côté la programmation pour m'apercevoir qu'elle était complètement studio. Traditionnel à mort, puis verbal, complètement verbal. Puis de voir qu'il n'y avait pas eu de maîtrise de la technologie. Bon. Les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de maîtrise de la technologie, est-ce que ça dépend des gars qui étaient là?